I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Propulsé par mademoiselle.com.
Bienvenue dans le 121e épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de mademoiselle.com.
Levez les bras dans la descente.
Attention, attention, ce soir, aujourd'hui, autour de la table, nous avons Kalindi, la chef.
Je ne participerai pas du tout à ça, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vraiment, à aucun moment je participerai à ça.
Kalindi, la chef des rubriques cinéma et séries.
Tout à fait, c'est bien la fonction que j'occupe. Merci Alix.
Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi le directeur des contenus sur Acast, Cédric. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, ravi d'être invité, Alix, à cet extraordinaire événement bimensuel.
Ça me fait tout.
Alors vraiment, c'est
hebdomadaire.
C'est vraiment hebdomadaire. Et c'est-à-dire Kalindi, que toi, tu viens que deux fois dans le mois, mais en vrai, nous, on est là tout le temps, tu vois.
Kalindi, te moque pas de lui, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, tu pensais que le LMK, ça sortait le mercredi. Ça fait un an que c'est sorti.
Non,
le
mais
jeudi.
C'était le jour où j'avais la grippe, non ?
Oui, oui.
Et nous avons aussi la rédactrice en chef de mademoiselle.com, Mimi, bonjour.
Bonjour Madame Martineau, quel plaisir d'être à votre micro en ce beau mardi.
Écoutez, c'est à moi que ça fait plaisir de vous avoir tous autour de cette table.
Vous imaginez, c'est ça notre vie, peut-être un jour de faire des vraies émissions sérieuses tout le temps et tout.
Ah, moi je serais trop forte.
Bah ouais, mais est-ce que tu rirais autant ?
Non, bah non, mais peut-être les gens seraient plus contents que je ris moins, parce que je leur casse les oreilles quand même.
Non, tout le monde est ravi de ton rire.
C'est moi, vrai
ton
rire, ouais. Oh, c'est gentil. Est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui ?
Kalindi, elle en a.
Eh bien oui, mais écoutez, vraiment, en ce moment, c'est fou, parce que dès qu'Alix me dit « As-tu un commentaire ?», j'en reçois un, mais quasiment de manière immédiate. J'ai envie de dire, là encore, « Synchronie ».
Ni.
Alors,
C'était pas très
la synchronie la moins synchronisée.
Alix, tu es là pour casser nos bails, c'est pas la peine. Alors, c'est une dame qui s'appelle Camille Seren Bana, ou encore dit Camille 18 secondes. Bonjour Kalindi, je ne sais pas, c'était écrit dessous. Bonjour Kalindi, je ne sais pas si tu liras ce message car tu dois en recevoir 2 millions. C'est vrai que j'en reçois vraiment 2 millions. Pas du tout. Mais voilà, parce que 2 ans que j'écoute LMK et putain, n'arrêtez jamais. Je t'écris ce message après avoir écouté l'épisode hashtag 117. Jean Reno mange la pasta à même le sol. On se souvient tous de ce très bel épisode. Alors je suis berrichonne et non Kalindi, les berrichons ne sont pas ceux qui ont des belles maisons. Je me rappelle pas du tout ça. J'ai aucun souvenir de cet épisode.
Moi non plus.
Et puis j'avoue, il faut vraiment que ça cesse immédiatement. Ce n'est pas humain de mettre du putain de ketchup dans son riz, bordel. Ni même dans les pâtes. Il faut vraiment arrêter d'initier ses enfants à la gastronomie avec ça. C'est immonde. PS, moi aussi je pensais que les épisodes sortaient le mercredi. Donc si la communication de la part d'Alix Martineau est mauvaise, c'est pas ma faute.
Eh bien n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram de Laisse-moi kiffer, dont la description est le podcast du kiff et de la digression tous les jeudis.
Voilà. Un indice chez vous.
Un indice chez vous. Cédric, il me semble que t'as un commentaire aussi.
Ouais, je l'ai perdu.
Super.
Du coup, j'en avais un autre.
Quel enfer.
Je suis déjà fatiguée.
Envoyé par Fab Flo.
Oh,
bonjour Fab Flo.
Hi Fab Flo.
Qui m'a envoyé un article qui...
article de Mademoiselle.
Mais c'est un commentaire de LMK ou c'est juste une discussion avec Fabrice parce
Non,
que,
c'est
coup,
un
ça
commentaire...
Pas comme...
Alors c'est un commentaire qui a un rapport avec LMK parce qu'il m'a envoyé un article sur le personnage principal de Céleste. Donc là on parle de LMK genre vraiment
wow, LMK, oui, c'est ça.
LMK 1 ou 2 ouais. Et du coup c'est un super article sur Medium qui merde, j'ai plus d'accès à l'internet parce que j'ai mis l'avion.
Est-ce qu'il l'a lu cet article à votre non. avis à main fait... levée, est-ce qu'il l'a lu plus qu'à 20%?
Mais non, bien sûr que personne n'a lu.
Non, mais personne ne lit les articles plus qu'à 20%.
Merci de faire la promotion du journalisme.
Voilà, merci de lire Mademoiselle à 120%.
Non, et donc du coup, en fait, ça revient, c'est le développeur ou du jeu.
Je sais pas si on va s'engager sur des noms ou des titres. Une personne impliquée dans la création
du jeu.
Une
personne impliquée dans la création du jeu qui revient sur le personnage principal. Moi, j'ai toujours cru que Céleste, c'était... Bon, après, on voit ce qu'on veut dans une narration de jeu vidéo. C'était un jeu autour de la dépression. Et en fait, a priori, ce serait plutôt un jeu autour de
la pêche intensive.
Non, mais en fait, c'est plutôt un jeu qui serait autour de la transidentité. Et en fait, Céleste, elle est jamais nommée en termes de genre dans le jeu. Et en fait, eh ben, c'est le... Alors, je sais pas si c'est une créatrice qui est devenue créateur ou créateur qui est devenue créatrice. J'ai la moitié des infos comme d'hab. Mais en gros, qui revient sur la création de Céleste en disant c'était vraiment avec ça que je me bagarrais quand j'étais en train de faire ce jeu. Et en fait, l'espèce de deuxième Céleste qui se crée dans le jeu, en fait, c'est la personnification de sa transition, ou en tout cas des questions qui se posaient avant ou pendant qu'il était en train de réfléchir à sa transition.
Et du coup, c'est trop qu'il normal, ou elle, car nous ça... ne savons pas. Exactement. Nous n'allons pas prendre le risque de mégenrer quelqu'un.
Exactement. Et donc, du coup, c'est intéressant.
T'aurais pu bosser pour un sujet trans.
Moi, j'avoue, quand même, putain, je suis désolé.
Autant, tu sais, des gens random, on se trompe de prénom, c'est pas très grave. Autant là, quand même.
Ouais, ouais. Mais bon, l'info, c'était ça. C'est que derrière, cette lecture de ce jeu-là, comme ça, est super intéressante. Et l'article est extrêmement long. Ismadi Canonical Trans Caractère. Un truc comme ça, Medium Canonical m'a dit, et comme ça vous pouvez retrouver l'article.
Bon, on vous mettra le lien de toute façon, si Cédric ne l'a pas perdu d'ici.
Moi je retiens de ça que tu t'es donc trompé à l'épisode 2.
Exactement.
Depuis le jour 1, ce podcast n'est pas précis.
Donc qui est étonné de ça? Il est à noter que Fabrice Florent m'a envoyé ça le jour de mon anniversaire sans me dire joyeux anniversaire.
C'est quand ton anniversaire?
Dieu.
Ah ouais, 17 novembre, ouais, c'était Far Away.
Oh, mais c'est la veille. Non mais oui, non mais c'est dingue. Scorpion, c'est la veille du 18, c'est extraordinaire.
Moi, j'ai dit abattard pour insulter Fabrice, mais après je pense que je ne t'ai pas souhaité ton anniversaire.
C'est pas grave.
Bon anniversaire, Cédric.
Ouais, merci.
Ce sera l'épisode de l'anniversaire de Cédric, d'accord?
Tout à fait.
Mais moi en plus, j'ai vu ça sur Facebook et j'ai dit putain, faut vraiment que je souhaite à mon Cédric. Et puis voilà.
Eh ben super.
Très bien. Bah écoute, c'est l'intention, ça fait déjà la moitié de l'action.
Oh, qu'est-ce qu'il est gentil en vrai.
Ouais, c'est clair.
Merci Cédric pour ce commentaire, Mimi.
Oui, alors, je dois être honnête avec toi, Alix Martineau, car je respecte ton travail et ton professionnalisme. Je suis un peu en train de gruger, car ce commentaire est presque un kiff en plus. Mais ça peut pas être un kiff en plus à 100%.
Tu nous câlines 10.
Parce que c'est un peu déjà un kiff que j'ai fait. Contexte.
Ok.
Dans le LMK, j'ai cherché du coup, dans le LMK numéro 63 en octobre 2019... j'ai parlé d'une creepypasta qui s'appelait The Left Right Game, qui avait été publiée notamment sur Reddit, où en gros, c'est donc une creepypasta, c'est une histoire angoissante, inventée. Et là, la personne inventait une histoire où une journaliste suivait des genres de complotistes qui pensaient que grâce à un jeu qui s'appelle The Left Right Game, en gros, le principe, c'est que tu montes dans ta bagnole, dès que tu peux tourner à gauche, tu tournes à gauche, dès que tu peux tourner à droite, tu tournes à droite, etc. Et au bout d'un moment, tu finis par arriver dans un genre de dimension bizarre où il se passe des choses étranges, et l'histoire devient de plus en plus flippante, elle est hyper longue, elle fait plein de chapitres et tout. Donc j'en ai parlé, et j'avais notamment regretté le fait que ça n'existe pas en podcast. Et c'est là qu'intervient une lectrice dont j'ai screené le commentaire, qui s'appelle Luisetta, qui m'a écrit sur Instagram. Salut Mimi. Smiley, sourire. J'aurais écouté un vieux LMK dans lequel tu parlais de la creepypasta The Left Right Game. Et vous aviez dit dans LMK que ça aurait été cool qu'elle soit adaptée en podcast. À l'époque, ça n'existe pas, mais j'ai découvert il y a quelques semaines qu'il y avait eu une adaptation en podcast depuis. Mon idée était d'écouter tous les épisodes avant de te le conseiller, mais j'ai dû arrêter aux 4 parce que j'avais trop peur. Smiley qui pleure. J'ai littéralement arraché mes écouteurs pour ne pas entendre la suite. Mais du coup, les 4 premiers épisodes m'ont bien plu. Et si l'épisode 4 ressemblait moins à un film d'horreur méga flippant, j'aurais continué. Pour l'instant, je ne m'en sens pas capable. Et d'ailleurs, j'ai même pas osé lire l'histoire parce que je pensais d'avance avoir peur. Bref, je t'envoie le lien. J'espère que ça te plaira. Et elle me dit « Respect si tu vas au-delà du coup du 4e épisode », ce qui, je pense, est plus facile quand tu connais l'histoire parce que t'es moins surpris. Et du coup... incroyable, je me suis dit, je vais écouter ça. Sachant que de base, je suis pas toujours hyper confiante quand j'écoute une histoire transposée, enfin un truc écrit transposé en podcast, parce que ça demande des capacités quand même d'acting et tout. On n'est pas sur un audiobook où quelqu'un lit l'histoire, c'est vraiment joué. Il y a une ambiance, du coup on est en voiture avec les gens. Il y a un peu des jeux où des fois t'as des sons dans une oreille et pas dans l'autre et tout, donc c'est hyper taffé. Et bon, c'est en anglais par contre, désolé, il faut parler l'anglais. Et c'est vraiment hyper quali. J'ai écouté les deux premiers épisodes et j'étais à fond. Ça m'a rappelé l'histoire. Et en même temps, j'ai un peu oublié la moitié. Donc je suis là, ouh, je vais être surprise quand même. Et je me disais, putain, c'est quand même hyper prod, quoi. Il y a l'air d'avoir v'là de la thune. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ai fait des recherches avant cet épisode.
Oh.
Et en fait, c'est coproduit par Tessa Thompson, grande actrice qu'on a vue notamment dans la dernière saison de... Pas Watchmen, l'autre... Westworld, et dans Thor et Avengers et tout ça. Et c'est elle qui joue.
Qu'on avait interviewé sur Mademoiselle. Qu'on vous a aurez interviewé. Le lien dans les notes du podcast.
Bah, c'est vrai.
C'était toi d'ailleurs. C'était Louiselle. Bisous Louiselle.
On l'embrasse. Oui, on embrasse Louiselle qui a fait un stage chez Mademoiselle. Voilà, quand vous êtes stagiaire chez Mademoiselle, des fois vous interviewez Tessa Thompson.
Ça arrive. Je dis quand Kalindi a la flemme en plus.
Quand vous êtes employé chez Mademoiselle, vous arrivez au stade, j'ai la flemme d'interviewer Tessa Thompson. Quand vous êtes stagiaire, vous récupérez la flemme et vous interviewez Tessa Thompson, c'est pas mal. Et du coup, elle est coprod et elle joue le personnage principal, donc la journaliste qui est à bord d'une voiture avec ce mec qui croit au Left Right Game. Et du coup, ça explique que ça soit hyper bien joué. Les autres noms du cast sont moins connus, mais voilà, c'est des gens qui sont vraiment comédiens et comédiennes de profession. C'est hyper immersif, c'est trop bien. Donc voilà, merci beaucoup Luisetta de m'avoir informé que ça existe. Je pense que tous les épisodes font genre 30 minutes, il y en a moins de 10. Donc ça va aller quand même relativement vite, mais c'est trop cool et c'est chouette, et c'est le mec qui a écrit l'histoire qui a l'a adapté. Donc c'est pas un truc genre on a volé une histoire trouvée random sur internet, c'est le créateur de l'histoire qui est impliqué.
Putain,
et c'est trop
ça
bien,
ça a l'air trop
donc,
bien ouais.
Trop cool. Par voilà. Contre, et toi ça te plairait Cal,
ouais je pense bah, c'est 100% les trucs que j'aime quoi.
Ouais, c'est clair.
Par contre je voudrais juste faire une petite réclamation, arrêtez de voler les idées qu'on lance dans ce podcast parce que
donc Tessa Thompson,
Tessa Thompson, genre stop, prenez au moins des acteurs locaux genre nous. Tu vois,
c'est ça. J'aimerais que Cédric soit dans une production audio Mademoiselle qui fait hyper peur. Vraiment un truc horrifique.
Ce serait possible.
Bah c'est avec en fait une série audio sur son style vestimentaire quoi finalement.
Oh ça faisait longtemps hein.
Si elle chante.
Je l'aime.
Non
tellement.
Mais parce que l'autre jour on a reçu un communiqué de presse d'une appli, je crois qui s'appelle Vox Love. Sauf que dans LMK, l'épisode je ne sais plus combien avec Marie Vrigno, moi-même, Mélodie et quelqu'un d'autre.
Et
bien, et toi? Eh ben, on avait parlé des vocaux.
C'est vrai qu'on l'oublie facilement dans un groupe Kalindi.
On avait parlé des vocaux, c'était le kiff de Mélodie. Et on s'était dit, on va lancer une appli qui s'appellera Voco Pécho, où ce sera une application de rencontre avec des vocaux. Et ils l'ont fait!
Mais avec un meilleur nom du coup.
Non, c'était trop bien le Voco Pécho.
Ah bah, il y a un autre truc à dire. C'était Voco Pécho de leur appli.
Eh ben, figurez-vous que le rouge à lèvres, le rouge à gencives,
ça existe.
Eh ben, ça existe.
Et ils en ont fait un podcast.
Voilà, c'est une auditrice qui m'a écrit un message l'autre jour pour me dire, figure-toi que ça existe, je sais plus dans quel pays, où tu mets une pâte pour assainir tes gencives, et en gros, ça les rend plus luisantes, ou je sais pas trop, mais quoi. Mais oui, du coup, luisante.
Et une belle gencive, c'est une gencive luisante.
Dans laquelle tu peux te regarder.
C'est un signe de bonne santé.
Donc voilà, tous mes projets commerciaux sont tombés en ruine, donc je ne serai jamais riche grâce au rouge à gencives. Voilà.
Quel dommage. Nous l'attendions tous, pourtant. À bientôt pour une nouvelle start-up créée par Kalindi Rampfen.
Je vais vous lire un commentaire sur Apple Podcast qui a eu 5 étoiles.
Ouais.
C'est Ayam Léo qui dit « Vous me faites passer pour un fou ». Alors... Cher LM Kiefer, je fais la chose la plus weird mais poétique en ce 12 novembre, jour de mon anniversaire. Bon anniversaire!
Bon anniversaire!
Et de la sortie du dernier épisode de LMK. Je suis assis sur un banc, sous un platane, où l'azur du ciel est roi et le soleil me caresse doucement la nuque. Les feuilles tombent tranquillement grâce aux fins zéphyrs automnales. Mon casque sur la tête, je regarde la forêt et dérange tout le voisinage en riant aux éclats. Et ça résonne en vous écoutant et en regardant fixement les champs devant moi.
À mon avis, sa résidence s'est alliée pour dire non, mais lui, il faut que. Bon, faut faire quelque chose là.
C'est poétique pour moi et j'ai l'air creepy as fuck pour eux. Je m'en vais vite avant que mon attestation n'expire.
Ça dure qu'une heure une attestation, hein,
oui,
les gars.
C'est
3 maintenant.
Bisous, vous faites passer notre confifi plus rapidement et dans la joie plutôt que dans la morosité.
Oh,
merci.
Oh,
Mimi.
Merci à Yam
Léo.
Merci Léo.
Je suis Léo.
Yam Léo, ouais. Et ben.
Podcast bilingue.
Et sinon, j'ai reçu plusieurs commentaires. J'avais parlé de Normal People dans un épisode de LMK et tout le monde m'a dit que c'était trop bien et que même des gens se faisaient des franges à la Marianne, qui est l'actrice principale, enfin le personnage principal de la série, et que tout le monde a fait ça, dont moi-même. Voilà donc, j'ai aussi. Alors ça, c'est inédit, car vous savez, sur Apple Podcast, pour être lu, il faut
5 étoiles et faire un commentaire sympa, quoi. Là, c'est un commentaire de hate.
Il a mis combien d'étoiles ?
Il a une étoile.
Ah, c'est sympa. C'est pour notre bonhomie. Déjà...
Mais pas... je sais pas si on peut mettre 0 étoile.
Je sais pas
en fait.
Si on peut mettre 0 étoile. C'est une étoile. Et le titre du commentaire, voix de dinde.
Mais attends, mais c'est un commentaire hyper réaliste.
À mon avis, parle de Cédric.
C'est pas sympa.
C'est... Il y a juste marqué ça.
Non,
une
c'est
étoile,
le titre.
Voix de dinde.
C'est
ouais.
Le titre, voix de dinde. Ce... Alors, c'est 1, 2, 3, nous irons, du coup, qui ne nous écoute plus, je pense. Cela pourrait être bien, mais les voix de petites filles stupides que vous prenez rendent vos propos idiots. C'est de l'audio, alors les voix, c'est la base.
Ah, c'est, ouais, tout ça, ouais. C'est tout.
C'est juste ça.
Mais ouais, c'est marrant. C'est...
Ah non, mais je suis hyper déçue, attends.
Je pensais qu'il y aurait, tu vois, un peu d'originalité, quoi, dans la critique.
En même temps, avoir des voix d'un dinde en décembre, c'est avoir l'esprit de Noël.
Wow, wow. Mais qu'est-ce qu'on l'aime, putain.
Est-ce que vous pensez que ça va convaincre cet auditeur ou auditrice de nous laisser une deuxième chance?
On l'espère. Un,
allez,
deux, trois,
au-delà
nous irons
de nos voix de dinde et venez pour nos blagues de qualité comme celle-ci.
Mais ce qui est drôle, c'est que les voix de petites filles, c'est un truc qu'Alix déteste en plus. Ouais. Déteste qu'on fasse les voix de bébé. Alors vraiment, je vois, c'est marrant parce que
je vois pas trop.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à moi qui fais.
Mais qui nous disent qu'on dit trop de gros mots, qu'on se parle dessus, qu'on n'a pas les enfants et qu'on parle fort. Tu vois, bon, ça se tient. Mais voix de petite fille, je suis là.
Mais quand... je crois que vraiment, il parle que de Cédric. Enfin, tu vois. Je...
C'est vrai que c'est pas hyper sympa de lire un commentaire ciblé devant tout le monde. Allez,
c'est... Ah, d'ailleurs, en parlant de toi, Cédric,
ah, c'est moi qui ai une voix de petite fille.
Et en si parlant de toi, podcast, Cédric, on a tous des voix de petite fille.
Ah, mais regarde, Monsieur Chaussette.
Il a écouté Monsieur Chaussette, mais c'est Monsieur Chaussette.
Monsieur Chaussette, il a une voix de dinde, ouais.
Dinde chelou, dinde pas comestible.
Dinde sous extra. Mais c'est sûrement ça. Non, mais en parlant de toi, Cédric, je sais pas si vous avez suivi dans les derniers épisodes de Laisse-moi kiffer, on a eu l'incrustation d'une chronique spéciale de Yannick Coach Life, sur lequel j'avais fait mon kiff dans les épisodes précédents. Et du coup, il nous avait fait une chronique culinaire pas du tout audio. Enfin bon, c'était au top.
C'était trop marrant. Bah, découpé comme ça, là,
tu vois, comme ça, là.
Quand ça ressemble à ça, là, bah t'arrêtes.
Donc je l'aime
vraiment,
trop.
C'est un podcast dans lequel il y a toujours plus de rubriques. Oh, c'est vraiment incroyable. Maintenant il y a la rubrique de gens qu'on connaît. À...
Non mais moi je l'adore Yannick vraiment et il me parle du coup tout le temps sur Insta. Et un moment il écoutait LMK, et il m'a envoyé, il me fait la voix de Cédric ressemble quand même beaucoup à la mienne. Alors si c'est de l'imitation, je le prends mal. Et, tout. Et du coup je pense que Cédric est Yannick Coach Life.
Ah,
si vous êtes chaud pour cette théorie, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire.
En fait, disant, si vous pensez, là, le rating il a pris, si on a eu une étoile, là, ça a fait baisser la moyenne.
Ouais, c'est ça.
Allez, mettre 5 étoiles. Je vais débunker ça tout de suite. En fait, Cédric n'a pas le temps d'être Yannick Coach Life, en fait.
On nous a jamais vus dans la même pièce.
C'est exactement ce que Yannick m'a dit. C'est exactement ce que Yannick m'a dit. Je pense que
non,
c'est.
Non, mais vraiment,
c'est pour ça qu'il est tout le temps en retard.
Oui, peut-être.
Il est occupé à vivre sa deuxième vie.
De coach de vie.
Ok, bah peut-être.
J'adore.
Ok.
J'ai aussi... Putain.
Elle regrette.
J'ai aussi une dédicace. Alors, d'abord, je voudrais faire une dédicace à Charlotte et Angèle qu'on vient de croiser en bas des locaux, de nos nouveaux locaux de Mademoiselle, parce qu'on vient de déménager. Et donc, on les a croisées et on les adore. Elles sont trop mimes. On les embrasse très très fort.
Tout à fait.
Et on a aussi une dédicace d'Adrienne. Pardon, c'est pas une dédicace d'Adrienne, c'est une dédicace à Adrienne de Laetitia 1719. Hello la team LMK, merci de me faire kiffer chaque semaine. Vous m'avez suivi, sans le savoir, pendant tellement de moments de galère et franchement j'aurais dû vous mettre dans les remerciements de mon mémoire. Je décide finalement de vous écrire pour faire une dédicace à ma super amie Adrienne. La semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on écoutait toutes les deux LMK et elle habite au Kentucky. Et on était dans un tel état d'excitation, on s'est promis de se faire une dédicace. Alors dédicace à toi Adrienne, toi qui remplis mon cœur de bonheur et d'amour, tu es l'une des plus belles rencontres de ma vie et je sais que peu importe le temps et la distance, you can count on me.
Wow.
C'est trop choupi.
J'ai hâte de te retrouver bientôt en France et de retrouver les gros staffs de Mademoiselle pour redanser ensemble toute la night comme à l'époque où le Covid n'existait pas. Gros
putain,
bisous à tous.
Trop hâte des gros staffs.
Moi aussi. Bon, cette introduction a duré 8000 ans, j'avais une anecdote de star mais je pense qu'on va passer direct au kiff.
Non.
Non, vous voulez?
Bah non, maintenant que tu l'as dit, il faut le dire.
Bon, eh bien, écoutez, je vais vous faire une anecdote de star. Donc, ça commence par donc, en majuscule.
Donc comme les posts de Bernard Werber, je sais pas si vous avez remarqué.
Mais pourquoi on fait followerait déjà Bernard Werber dans la vie.
Mais c'est parce qu'elle a rencontré
Mais non, mais vraiment, si vous, allez voir son... si vous allez voir son Instagram, tout commence par « Donc, j'étais là dimanche dernier. Donc, une classe avec mes étudiants. » Et vraiment, je suis là « Pourquoi il fait ça ? C'est hyper bizarre. »
C'est son bref voilà. à lui.
Très bizarre.
Donc, j'étais avec mes étudiants.
Donc, vraiment, on l'a pas commencé l'année dernière. On a déjà digressé.
J'ai essayé de commencer plusieurs fois. Donc, j'étais à Saint-Rémy de Provence avec la mif et une pote et on s'installe à la terrasse d'un resto afin de s'en mettre plein la panse. Il manquait une chaise, alors ma mère commence à aller prendre la chaise de la dame à une dame assise à côté qui lui dit « Désolée, il y a mon mari. » Et son mari n'était autre que... Jamel Debbouze.
Oh, oh
cette dame était donc... Elissa Thoriot. C'est fou.
Oui. En grande discussion
si
au téléphone...
Elle, on a un scoop.
Mais ouais, t'es ouf, j'étais en train de me dire ça.
En grande discussion au téléphone avec son manager quelques mètres plus loin. Bref, on les a laissés tranquilles, ils étaient en vacances avec leurs deux filles. Bref, tout allait très bien jusqu'à ce que deux adolescentes qui gloussaient depuis une heure viennent lui demander des selfies. Et il a dit oui, mais bon, c'était un peu forcé. Ça se voit qu'il aurait préféré siroter sa bière et féliciter ses filles qui faisaient des spectacles de danse. Vraiment, je comprends pas trop pourquoi venir l'embêter. C'est une vraie question. Alors, c'est une vraie question. Ça change quoi d'avoir une photo avec quelqu'un de célèbre ? Il est temps de poser les vraies questions.
Les likes.
MDR.
Ça fait des likes. C'est simple. Des likes, ça fait vraiment
ah, mais
des
parce
likes.
Que là, maintenant, bah, faut faire des... il faut... maintenant, faut qu'on discute.
Ouais.
De...
Ah ouais, mais les gens nous posent des questions, Kalindi. Il faut l'expertise. Toi qui côtoies des stars et qui en a une
ah,
toi-même,
mais au quotidien,
à quoi ça sert les photos avec des stars.
Mais en vrai, tu dis pour les likes, mais en vrai, avant même les, avant l'époque des réseaux sociaux, les gens ils voulaient des autographes et moi je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Petite anecdote. Un jour j'étais à Roland Garros avec mon daron.
Et genre Roland Garros.
Et vrai, bah mon père était prof de tennis avant, donc le tennis c'était toute sa life. Et en fait, cycliste. Un jour on va, pardon.
Il était pas cycliste.
Ah mais t'es prof de tennis à l'île Maurice, c'est son premier job dans le sport.
D'accord.
En fait. Et c'est comme ça qu'il est devenu géo au Club Med, bon bref. Et
destin.
Et en fait, donc un jour on va à Roland-Garros, c'était ma première fois, j'avais 5 ans, j'en avais à peu près rien à foutre évidemment. Et il m'a dit « Regarde, c'est Steffi Graf, c'est incroyable !» Et il m'a obligée à aller demander à Steffi Graf un autographe et tout. Et j'étais là « Bonjour Steffi Graf, est-ce que je pourrais avoir un autographe ?» Déjà j'étais saucée parce que ça rimait un peu. Et ça rimait même...
Déjà la poésie dans ta
déjà
tête.
Déjà la poésie dans ma tête. Et voilà, bah, c'est mon anecdote quoi. Et en fait vraiment. Je suis rentrée chez moi et genre en fait c'est la seule fois où j'ai demandé un autographe, tu vois, je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais maintenant je fais quoi avec ce bout de papier, tu vois?
Tu le lèches.
Tu le frottes contre toi.
Oh putain.
Mais du coup, en fait, je saurais pas répondre à cette question. Je pense que les gens ont envie de rapporter un bout de ce qu'ils admirent chez les autres avec eux, tu vois. Mais un autographe, une photo, ça sert pas à grand chose. Donc moi, j'ai jamais pigé. Moi, j'aime pas déranger les gens. Donc
moi, je pense que ce qu'il faut faire quand t'as une célébrité en face de toi, c'est tu prends, enfin, tu vois, tu prends pas de photos quoi que ce soit. Juste, tu vas écrire un commentaire sur Apple Podcast et tu racontes cette anecdote de star.
Moi, je pense
que c'est la meilleure des choses à faire.
Voilà.
Bah oui,
je pense
clair.
Que rien ne concurrencera mon anecdote que je viens de vous raconter, vraiment. Ouais, genre, vraiment. Je pense qu'elle est imbattable, vraiment.
Mais à chaque fois, t'arrives dans le game, tu niques le game, ça c'est
clair. Évidemment, Steffi Graf, ouais. Qui se souvenait de Steffi Graf?
Je sais même pas qui c'est, voilà.
Bah voilà.
Merci beaucoup, Kalindi, pour cette anecdote. Et puis, passons tout de suite au kiff. Allez, jingle.
Allez, on reprend. LMK. Sympa. LMK FM. C'est les gros kiffs.
Waouh. Merci, Valentin. Alors, on commence tout de suite avec les kiffs. Mimi.
Ouais, c'est moi.
C'est quoi ton kiff?
Alors, mon kiff, c'est un programme Netflix qui n'est pas une série ni un film, mais plutôt une émission de télé-réalité. Je vous ai déjà parlé dans LMK du fait que la magie, j'aime bien. Ok, j'aime bien la magie, l'émerveillement, ça marche de ouf sur moi. Tu sors une pièce de mon oreille, je suis en PLS. Enfin, tous les tours de magie les plus basiques.
Little Mimi, quoi.
Je vous avais raconté que j'avais été au musée de la magie, puis au Double Fond, qui est un café théâtre de magie à Paris. Et que le musée de la magie, le spectacle de magie, c'est vraiment 5 ans l'âge pour de la cible de ce spectacle. Et j'étais déjà au bout de ma life. Donc vraiment, c'était très bon public. Et il se trouve que j'en avais entendu parler depuis longtemps, mais je m'étais pas encore penchée dessus. Et là, avec le confinement, je commence à écrémer, vraiment à arriver au bout de la liste de tous les trucs que je dois mater depuis 108 ans. C'est donc un programme Netflix, enfin un programme britannique disponible sur Netflix qui s'appelle Fool Us with Penn and Teller. Et donc Penn and Teller, c'est un duo de magiciens très très connus, américains, qui bossent depuis des décennies, qui sont à Las Vegas, qui font des spectacles tout le temps. Et en fait, donc Penn, c'est un grand assez costaud avec des longs cheveux qui avec une bonne grosse voix qui parle beaucoup, et Taylor c'est un petit frisé, c'est un peu Laurel et Hardy les deux, c'est un petit frisé qui paye pas de mine et lui il parle jamais. Du coup leurs tours ont beaucoup de comédie et se construisent beaucoup sur le fait que lui il cause, l'autre il cause pas, et du coup il s'appelle Taylor
l'une
alors
chante,
qu'il parle
l'autre
pas, c'est rigolo. Peut-être qu'il chante parfois. Et en fait, Penn & Teller, c'est un concours, c'est un télécrochet de magie, où le concept, c'est que... Arrête de te moquer, Khalidi.
Non, mais j'adore quand je découvre des petits amours de Mimi, comme ça, vraiment, c'est...
La littérature russe, la magie.
La magie.
La capoeira.
La capoeira, mais non, mais c'est tellement éclectique, tu vois, c'est rigolo.
C'est vrai que comme ça, c'est un peu camoulox. Mais bon, je suis une femme complexe.
Et la littérature russe.
Et du coup, les candidats, en fait, ils viennent... Chaque émission fait une heure et il y a quatre tours, plus un tour de Penn & Teller. Et les quatre tours, c'est des candidats qui viennent, un par un, et qui font un tour devant Penn & Teller. Et le but, c'est que Penn & Teller ne comprennent pas comment ils ont fait leur tour. Oh. Et s'ils comprennent pas, donc ils ont été fooled, et là, tu gagnes de faire leur première partie à Vegas. Donc c'est pas mal. Parce qu'en plus, les deux premières saisons, c'est genre à Londres, donc c'est des magiciens britanniques qui sont pas forcément très connus, qui sont parfois vraiment des magiciens de rue et tout. Donc en termes de carrière, c'est un bon gros boost déjà passé dans l'émission, et en plus la gagner, elle est à Vegas, c'est cool. Et du coup, en fait, Penn et Teller, ils se mettent dans la peau de... On veut retrouver l'émerveillement de avant qu'on soit magicien et qu'on connaisse tout à la magie et que vraiment les tours nous bluffent, mais ils connaissent tous les trucs, et du coup... Quand il parle, donc la personne fait son tour, et ensuite Penn & Teller lui disent « Ok, soit on sait que t'as fait comme ci ou comme ça, mais ils disent jamais exactement. Ouais. Soit ils disent « On pense que t'as fait ça. » Et là, s'ils ont tort, bah du coup, ils ont perdu, ils ont été full, donc la personne va à Vegas. Et donc, des fois, ils sont vraiment bluffés. Et ils sont trop contents d'être bluffés, parce que c'est rare pour un magicien qui fait ça depuis des décennies. Et en plus, ils se tiennent au courant de... Des fois, ils disent « Bah en fait, on connaît ton tour parce qu'on a lu ton livre, donc on sait comment tu l'as fait parce que tu l'as mis dans un livre que t'as vendu à des magiciens et qu'on a lu et qu'on a trouvé super. On s'est dit qu'on allait prendre ton tour aussi, le faire sur scène, te l'acheter et tout. » Donc bon, forcément, si tu fais un livre où t'expliques un tour et qu'après, tu vas le faire devant des magiciens, t'as un risque qu'ils l'aient lu. Et du coup, à chaque fois, c'est un peu cheesy, c'est, je sais pas, un peu un télécrochet britannique qui a pas l'air d'avoir un budget incroyable, parce que la magie, c'est pas... Même si je crois que c'est plus respecté au Royaume-Uni qu'en France, mais ça a quand même un côté, bon, c'est pas... tu vois, c'est pas le budget de The Voice, quoi, le truc. Le présentateur, il est marrant, il fait des petites blagues britanniques et tout, il est content. Et je sais pas, il y a une ambiance un peu familiale, les gens, ils viennent faire des tours, il y a plein de types de magie différents... Mais on en revient souvent aux classiques du genre les tours de cartes, les tours de pièces, les gens qui disparaissent, qui réapparaissent. J'ai évidemment bouffé deux saisons en quatre jours, je pense. Et il y a une des saisons qui se passe à Vegas, où du coup, ils castent des gens à Vegas. Et à chaque fois, t'as une petite présentation du candidat. Et ça, c'est ma partie préférée, parce que vraiment, les magiciens, c'est quand même un type de personne fabuleuse. Déjà, il y a que des gars, il y a quasiment pas de meufs, c'est chaud. Ouais. Je crois qu'il y a deux meufs qui ont... candidater chacune en solo, et sinon toutes les meufs c'est des duos où en gros le magicien c'est leur mec et ils sont en couple et ils font de la magie en couple. Il me semble qu'en plus la plupart elles étaient pas magiciennes à la base, mais elles se sont mises avec ce gars là et elles sont devenues un peu leur assistante. Du coup, il faut pas s'attendre à un show féministe, on va pas se mentir. C'est le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que parfois il y a des vannes un peu genre bon ça va, c'est pas hyper marrant quoi, c'est un peu ton beauf, c'est jamais insultant mais c'est un peu beauf. Et sinon tout le reste bah c'est des mecs blancs pas très socialement doués, habillé avec beaucoup de vestons et beaucoup de rubans dans les cheveux. Attends, beaucoup de pilosité faciale. C'est
ça.
Incroyable. Mais c'est vraiment les mecs que tu vois traîner dans les shops de magie et tout ça. Tu
mais
vois,
personne
c'est
ici ne va dans des shops de magie. Mais, bien, ça,
mais non, mais t'as jamais vu les boutiques de genre Farce et Attrape où c'est les mêmes mecs que tu vas avoir traîné dans... Je veux pas être insultante. Mais non, mais dans les boutiques Warhammer ou des trucs comme ça, c'est des nerds en fait pour
les
être magique.
Les boutiques
magiques. De Rammer. Mais non, Warhammer, c'est des trucs de figurines à peindre ou pour construire des bagarres.
Les boutiques de Rammer, t'as bien compris, Kalindi. Les gens, ils font de la rame, ils font des...
C'est un peu la même chose, j'ai l'impression, le même genre de population.
Ils sont tous musclés, après ils vont farcer
non, mais ceux qui rament dans la vie sociale, quoi. Oui.
Et après, ils essayent d'aller à Las Vegas une fois qu'ils ont bien ramé.
Non mais alors juste je me permets, il y a quelques temps avec des amis on a été dans un shop de magie justement où j'ai acheté beaucoup de choses et alors vraiment je suis rentrée et en fait moi j'aime beaucoup Modern Family et dans Modern Family il y a le personnage de Phil Dunphy.
Ça va.
T'as su quoi?
Je sais pas où mais ça
arrêtez,
va.
Mais putain
mais je sais pas pourquoi il rit, moi je t'écoute.
Et donc il y a
Phil Dunphy.
Moi aussi je l'adore et donc du coup c'est un gars qui est agent immobilier mais sa passion dans la life c'est la magie et genre vraiment c'est un mec au cœur trop pur, il fait tout au premier Doug, on l'adore, ouais. Il est un sup. Et ah merde, je sais en effet pas où j'allais avec ça.
T'es dans un shop de magie.
Ah ouais, voilà. Et en fait, le gars qui m'a ouvert la porte du shop de magie, franchement, j'étais saucée par lui, tu vois, parce que genre, on aurait dit un peu Phil Dunphy. Et j'étais là, mais en vrai, c'est le meilleur job de la planète.
Mais grave.
Mais c'est incroyable, t'arrives et tu te dis, voilà, alors là, j'aimerais me déguiser en Poséidon et tout. Et le gars, il est là, bah, bien sûr, mais le trident, vous le voulez en quelle couleur, machin et tout. Je suis là, c'est exceptionnel. Il fouille, il y a des milliards de trucs. C'est la caverne aux merveilles. C'est extraordinaire. Voilà, c'était juste un petit aparté pour dire que j'ai pénétré pour la première fois cet antre-là, il y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Et c'était extraordinaire, voilà.
tu voulais vraiment un costume de Poséidon ou pas?
Question de oui.
Je voulais une perruque de sirène, je voulais un cœur, tu sais, arraché, là, un faux truc en caoutchouc. Je voulais plein de trucs, un serpent, enfin, des choses, quoi. Et
ouais, les soirées sympas chez Kennedy. Ouais, c'est clair. Les fêtes de fin d'année. Mon gars, ça déconne zéro.
Alors, donc, oui.
Non, voilà, mais tu vois, c'est cette vibe-là, c'est des mecs qui sont vraiment, je veux pas du tout les critiquer, parce qu'en plus, je trouve qu'ils font un super beau métier, et ils ont tous un peu cette storyline de... En fait, enfin, des fois, c'est galère d'être magicien, c'est galère d'avoir des contrats, parce que c'est une freelance vie, hein, globalement, pour la plupart. Mais en fait, notre job, c'est de rendre les gens heureux, et de leur faire oublier, genre, un instant, la réalité du monde, et de leur ouvrir la porte à « imagine, il y aurait plus dans le monde, genre, la magie existerait ». Et du coup, c'est la meilleure sensation. Donc moi, je suis là « oui, c'est vrai, ils ont raison, c'est trop bien comme sensation, je suis au top ». Évidemment, même si c'est un show de télé, bon, bah, le public n'est pas complice, il n'y a pas de tricks de caméra où genre le tour il marche parce que la caméra elle est bien placée, puisque Penn et Teller sont devant les gens, et parfois ils participent au tour, ce qui est toujours impressionnant quand le magicien il dit « ok ». Et il faut que quelqu'un pioche une carte, machin, je vais me rappeler de votre carte, et qu'il prend Penn and Teller, tu te dis ok, parce que du coup, eux, ils savent confiant, regarder. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand ils disent ce qu'ils ont deviné comme... Enfin, leur déduction, pardon, de comment le tour a été fait, ils parlent en langage codé, parce que le but, c'est pas de gâcher le tour pour tout le monde et de dire au public, bah en fait, il a fait ça et ça, la pièce était dans sa manche, parce qu'à chaque fois, t'es ultra déçu. Genre, une fois, je regardais ça avec mon mec, une fois, il a googlé un tour, je lui ai dit, mais... Google pas les tours, en fait, c'est tout le temps le seum, et il a lu la réponse du tour, et il était là, ah oh bah c'est nul. Je fais, oui, bah c'est nul, en fait, les tours de magie, quand tu sais comment ça marche, c'est globalement, cette personne s'est entraînée beaucoup trop longtemps à mettre une pièce dans sa manche, c'est pas très fascinant. Et du coup, quand ils disent leur déduction, ils la disent en langage secret, donc ils utilisent des métaphores et des références qui ont rien à voir, genre à un moment, là, celui que j'ai vu... à ma pause déjeuner, juste avant de venir, il y avait un gars qui faisait des super tours de pièces où les pièces disparaissent, réapparaissent, et surtout, il arrivait à en faire disparaître et réapparaître, donc il avait deux membres du public avec lui, et donc il y avait un gars qui tenait quatre pièces dans ses mains fermées, et le magicien n'a pas touché les mains du gars, et il a fait apparaître une pièce supplémentaire dans ses mains fermées, et j'étais là, mais c'est pas possible, enfin, le gars, il est là, il le sent, il le voit, je comprends pas, bref, c'est magique. Et du coup, pour ne pas révéler exactement comment le tour était fait, mais dire, je pense que tu as fait comme ça. Donc à la fin, c'est Penn qui parle, puisque Teller ne parle jamais, qui lui explique leur déduction, et il lui a dit « Est-ce que vous aimez les animaux de compagnie ? Moi, mes enfants voudraient des animaux de compagnie, sauf que j'aime ni les chiens ni les chats, donc on s'est dit qu'on allait leur prendre des tortues. Peut-être 12 tortues, mais l'une de ces tortues, vous le savez, il y a des tortues rares, qu'on n'aime pas trop montrer en public. Et du coup, ces tortues, par exemple, on les amènerait pas sur une scène de magie. » Et le mec, il est là « Je vois, mais vous savez, aucune tortue ici n'est rare. » C'est de l'absurde.
Et du coup, le mec,
en fait,
il fait « Ah, donc vous n'avez pas cette tortue ?»« Je n'ai pas cette tortue. » »« Eh bien, vous allez à Vegas. »
C'est génial.
Tu veux que je te révèle un truc, Mimi ?
T'es magicienne ?
J'ai un diplôme de magie, ouais.
Non.
Non.
Mais attends, comment... je vais péter un câble. Si on se connaît depuis 2 ans et que tu sais faire des tours de magie et que tu m'en as jamais fait...
T'as un diplôme, t'es à la Poudlard ou quoi ?
J'ai fait un stage de magie, ouais, quand j'étais petite.
Putain, ça y est.
Mais en fait...
2021, Alix, je veux un pastac.
Ok, si tu veux, j'ai toujours ma malle dans la cave de mes parents. J'ai toute une malle et tout, je les avais...
T'as un petit haut de forme et...
Non, j'étais une magicienne stylée, un peu mystérieuse comme ça.
Ah ouais.
J'avais des lunettes.
Et alors tu regarderas dans Penn & Teller les magiciens et magiciennes dont le truc, c'est justement genre d'être un peu magicien edgy et tout. Toujours un peu 2002 comme move, quoi. Ça marche jamais, c'est jamais très impressionnant.
Mais c'est justement en 2002 que j'ai fait mon stage.
Voilà.
Dans la grande vibe.
Non, mais j'avais trick mes parents pour qu'ils m'offrent ce truc. On était en vacances, je crois, et donc j'avais une semaine de stage, et donc j'ai appris à faire plein de trucs. J'ai acheté la grosse mallette qui coûtait genre 80 balles, tu vois, avec tous les tours à l'intérieur et tout. Donc je connais quelques codes de magicien.
Tu connais les tortues ?
Non, je connais pas les tortues. Okay. Par contre, je connais le FP. Enfin, genre, j'en connais plusieurs.
Le FP ?
Oui. Tu peux pas le dire et juste pas nous expliquer.
Bah si, parce que moi, je veux pas savoir.
Elle veut pas savoir.
C'est okay. Le langage secret des magiciens.
Je parle à tous les magiciens. Les crado.
Les magiciens crado, ouais, on essaye des mots balises comme ça.
Non, pour te dire, je veux tellement pas savoir que, en fait, au bout d'un moment, comme. Ah oui, et du coup, il y a quatre candidats ou candidates. Et à la fin, il y a un tour de Penn & Teller qui, du coup, font un de leurs shows, un de leurs tours qu'ils font à Vegas devant le public. Donc, c'est cool. Et comme là, du coup, il y a deux saisons sur Netflix. C'est bien sûr disponible en sous-titres français et tout. Et je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, je commence à capter un peu comment certains tours marchent, tu vois. Parce que quand tu vois 18 fois des tours de cartes relativement similaires, tu commences à te dire « ok ». Et avec, des fois, tu déduis quand même un petit peu de ce que Teller dit. Genre, il y a des moments où il dit « vous êtes d'accord que ça vous arrangerait pas du tout ?» si on regardait de près la carte en question. Et le gars, il est là, non mais bonne journée, allez, au revoir, c'était sympa de vous rencontrer. Et du coup, tu sais un petit peu regarder qu'est-ce qui peut être en jeu. Et donc, je pense, des fois, avec mon mec, du coup, on devine. Mais alors, tu sais, c'est comme quand tu regardes Top Chef et que tu juges grave les plats des gens, alors que toi, tu manges limite des pâtes au ketchup. C'était là, mais il est raté ton flambadou. T'as jamais mis un flambadou de ta vie, mais t'es d'un coup expert. Et là, bah, du coup, des fois, avec mon mec, on est là. Non, mais je suis désolée, c'est de l'arnaque. Enfin, à partir du moment où tu sais que la carte n'est pas dans le broyeur, ce n'est pas impressionnant. Vraiment, on est à fond. On est expert en magie. C'est mais génial. Je vais jamais googler est-ce que j'ai raison ou pas. Je vais jamais, même pour la petite satisfaction de dire, ah ouais, j'ai deviné, parce que c'est pas marrant quand tu devines. C'est pas marrant quand tu sais. Et du coup, je veux toujours laisser le bénéfice du doute. Et parfois, le tour commence au bout, à la moitié du tour, on est là. Bon, bah, ok, c'est bon, c'est ça et ça et ça. Et à la fin, Penn and Teller, ils disent pareil. On est là, bah, tu vois, voilà, c'était trop simple. Et le mec, il dit pas du tout. Et on est là, quoi?
What?
Parce qu'en gros, on a une idée de comment ça pourrait marcher. C'est pas cette idée, c'est vraiment, ces gens sont des sorciers, je pense, physiquement, de magiciens surnaturels. Et du coup, c'est trop bien. Voilà, c'est ma petite dose d'émerveillement. On m'en avait beaucoup parlé, bah, notamment ma copine Fanny qui aime beaucoup la magie, et ils en parlaient dans le podcast Magicos, dont j'avais aussi parlé dans l'MK, qui est très cool si vous voulez découvrir un peu.
Toute la culture magique!
Oui, j'aime bien la magie! Et bientôt, je vous parlerai dans notre show Netflix sur la magie, voilà, car j'en ai un autre en stock.
Comment il s'appelle celui-ci?
Fool Us with Penn and Teller. Et c'est trop bien. Et
pourquoi toi tu fais pas la magie?
Alors déjà parce que j'ai la dextérité environ d'un albatros, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouce opposable, l'albatros est peu dextre.
Il y a des serres pour déchirer des moutons, ouais.
Oui, ce qui n'est pas un tour de magie généralement, tu vois, rarement tu vas genre à la, voir un spectacle de magie et le tour est de déchirer un mouton, c'est peu courant, mais...
Ça marche qu'une fois,
ça peut être 2020, ouais.
Non, en vrai, j'ai pas la patience. Et enfin, j'en ai fait un petit peu. Je m'en suis rappelée quand t'as pris ton stage parce que je pense qu'Aline Di va se foutre de moi. Au lycée, en première, j'étais en crise d'ado et j'étais edgy. Et du coup, j'aimais personne. Et genre, tous les gens sont cons et moi, je suis différente. À part, j'aimais bien mon petit ami de l'époque qui m'a fait découvrir la littérature russe.
Ah!
Mais aussi Metal Gear Solid. Donc, il a aussi joué dans ma vie de geek gamer.
Sync Connect.
Et on avait, donc voilà, enfin je sais pas, j'aimais pas les gens quoi, ce qui n'a pas trop changé, mais maintenant je le cache mieux. Et ma prof d'histoire de gauche, vivre ensemble, tout ça, c'est dit, j'ai une promo de première d'ados, un peu tous en crise d'ados, qui sont pas très contents d'être là. Qu'est-ce que je vais faire pour les rendre contents d'être là? Je vais les emmener faire une semaine de stage de cirque.
Mais c'est Marie Vrignot qui a fait du cirque.
Et le cirque. J'ai vraiment, ça pour le coup, la magie j'adore. Le cirque, j'ai une haine pour le cirque, je sais pas pourquoi. C'est même pas des trucs un peu défendables, genre ils exploitent des animaux ou quoi, tu vois, c'est juste. J'aime pas le. Je hais les gens qui font du cirque. Je suis désolée si vous êtes circassien.
Bisous, déjà. Marie Vrignot.
C'est mon avis gratuit, voilà. Et du coup, comme j'étais réfractaire à l'idée de faire du cirque et surtout à l'objectif de ma prof qui était qu'on passe du temps ensemble et qu'on passe des bons moments, j'avais déjà décidé que j'allais pas passer une bonne semaine parce que je bien détestais sûr. Les gens et le cirque. Du coup, j'ai fait le seul truc qui n'était pas trop physique parce que j'allais pas non plus monter à des draps ou des cordes ou faire le funambule parce qu'à la fin, il y avait un pestacle devant nos parents. Genre, on était en première, tu vois, on avait 16 ans, on était là.
Ah ouais,
franchement, on est un peu vieux pour ces conneries. J'avais déjà mes cours de capoeira comme activité extrascolaire. Là, t'as concentré de tout ce que t'aimes chez Mimi. C'est la première aile.
C'est là que ça s'est passé.
Je portais parfois des fedoras au premier degré. Voilà, je te le donne, c'est pour ton image mentale.
Ouais. Vous auriez vu les yeux de Kalindi s'agrandir.
C'est clair.
Bah, j'étais un peu sapée, comme le sont certains candidats de Penn and Teller, car les magiciens aiment les chapeaux et les vestons. Voilà. Et du coup, j'ai pris le seul truc qui n'était pas physique. J'ai pris la magie, et donc j'ai passé une semaine à apprendre des tours de cartes nulles. Et aller faire à la fin à mon daron qui en avait rien à foutre.
Bisous Bernard.
Je suis pas sûre qu'il ait fait semblant d'être dedans, mais moi non plus je faisais pas semblant d'être dedans parce que j'avais pas envie d'être là.
Et ah, ben ça voilà, être un beau moment familial.
Une très longue semaine à tous les matins prendre le bus pour aller au chapiteau dans la campagne et faire du cirque. Donc c'est ma seule expérience de faire de la magie. Clairement ça ne m'a pas fait découvrir une vocation carrière.
Je crois que c'est vraiment l'environnement dans lequel je t'imagine le moins.
C'est tu vois, c'est un chapiteau. Je m'imaginais pas. Tu vois, j'avais pas envie. Oh, c'était l'enfer.
Mais
c'est
du là, coup, je vous ai raconté la fois où j'ai fait une colonie de cirque.
Oui, ben bah oui, tu l'as déjà raconté. C'est comme ça qu'on a dit que Marie Vrignot l'aimait.
Mais est-ce que je vous ai raconté que mon 10e anniversaire, je l'ai passé à un spectacle de magie. Et en fait, moi, quand j'étais gamine, j'étais très timide, mais vraiment très timide. Et en fait, ma mère nous avait dit, ouais, on va faire un truc de ouf. Moi, j'étais persuadée qu'on allait aller à Aqua Boulevard. Du coup, quand on est arrivé dans un truc de magie,
invente son propre cadeau.
Et du coup, quand on est arrivé au truc de magie, j'étais là, moi, je m'en bats les couilles.
Est-ce que t'as mis ton maillot de bain et ton bonnet?
non, mais j'étais vraiment là, genre, c'est de la merde, tu vois. Et toutes mes copines étaient là, super. Et en fait, comme le magicien savait que c'était mon anniversaire, il m'a fait monter sur scène. Et alors, à l'époque, ça représentait à peu près l'enfer pour WAM, tu vois. J'étais ultra stressée et tout. Et du coup, je me suis demandé, Mimi, est-ce que toi, tu aimes participer à des spectacles de magie?
Ouais,
est-ce
en vrai, tu préfères ouais. J'adore qu'on me fasse piocher des cartes. J'adore qu'on me dise, venez vérifier que les objets sont bien réels et tout. Je suis là en mode, yes, je vais être à la hauteur. Mais parce que j'aime bien le côté, genre, je suis la garantie que l'arnaque n'est pas trop visible. Qu'il n'y a pas un trou dans le cerceau ou des machins comme ça. Que c'est pas des fausses cartes qui ont toutes la même tête ou quoi. Mmh. Du coup, j'aime bien, mais après, j'aimerais pas. Genre là, des fois, il y a des magiciens dans Penn & Teller. Vraiment, il faut venir quelqu'un et tout le tour se fait sur la personne. Il y a un gars, ils font semblant de lui avoir caché une carte dans le bide et de l'éventrer pour de faux et tout machin. C'est tout. Ah. Chaque magicien a un petit peu son
style.
ça me saoulerait un peu, tu vois. Mais après, c'est juste pour venir et qu'on fasse un tour de carte et que je confirme que oui, c'est bien ma carte, je l'ai choisie, il n'y a pas eu de piège. Moi, je suis au top de ma vie parce que du coup, ouais. Je suis tout près du truc et je peux
c'est
bien.
C'est marrant
voir.
Parce que je t'imaginais plutôt à dire putain, pas moi.
Alors, moi, à 16 ans, jamais. Moi, à 16 ans, la timidité, mais incroyable.
Voilà, c'est ça.
Mais, et aussi une forme d'hostilité. Mais là, à mon grand âge actuel, oui, gros kiff. Et puis, je sais pas, c'est quand même cool, je trouve, de pouvoir avoir des tours d'hyper près. Et ça rend le truc encore plus impressionnant parce que quand t'es genre le spectacle que j'avais vu au double fond, on était pas mal placé, mais on était quand même à 3-4 mètres du plateau où il y avait des caméras et tout. Mais bon, c'est pas à Vegas le truc, quoi. Et alors que les tours que les serveurs font au début quand tu bois un verre, bah, ils sont vraiment à ta table, tout collé. Et j'étais là. Je comprends pas vraiment, elle est où la pièce? Elle était dans ma main, elle était là et tu m'as pas touché, elle est où la pièce? Incroyable, voilà, j'adore la magie.
Putain, mais c'est ouf.
Regardez la magie.
Mais ouais, ouais moi j'avais oublié cette passion qui était la mienne, hein, franchement. Parce que moi j'avais carrément. Mon prof, je l'aimais tellement qu'il faisait un tour que je comprenais pas et je l'avais reproduit.
Comment ça?
Genre. Bah, je l'avais réinventé.
Que tu... Ah.
Ouais, je l'avais...
ah, tu l'as rétro-ingénieré. Genre, t'as dit, ok, il arrive là, je sais pas comment il fait.
Ouais, mais
je vais
partir du
résultat et essayer de deviner comment. Waouh!
Ouais, j'avais fait ça. Mais en fait, je sais pas du tout si j'étais douée ou pas, tu vois. Dans ma tête, j'étais ultra forte. J'adorais tout ce qui était à base de lire dans les pensées et tout. Enfin, c'était vraiment ma passion.
Ça, c'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie aussi.
Oui, tout à fait. Mais je suis une sorcière, en fait. Et ouais, j'aimais trop, mais j'aimerais trop avoir le retour de mes parents, voir s'ils captaient ou pas les tours ou s'ils faisaient juste semblant.
Mais tu veux pas nous en faire?
Bah, faudrait que je me réentraîne. Faudrait que je me réentraîne, je vous ferai.
Anec Boff de Star, le créateur du podcast Magico, se travaille dans cet immeuble. Donc peut-être que nous le croiserons.
Mais non. Incroyable. Et quid de Dani Larry alors? Mais qu'est-ce qui devient lui?
Si vous avez des nouvelles de. Si vous êtes Dani Larry, envoyez un message.
Non mais attends, mais Dani Larry en invité de Laisse-moi kiffer, s'il vous plaît. Dani Larry, vous vous souvenez peut-être, c'était ce magicien qui était au plus grand cabaret du monde il y a bien 20 ans de cela et qui venait toujours...
Mais qu'est-ce que tu regardais à la télé, meuf, sérieux?
Mais non, mais évidemment, enfin, Shirley Dino, le plus grand cabaret du monde, Ruquier, on a eu la même culture, hein, visiblement. On a la même daronne, je pense.
Mais oui, non, moi, c'était chez mes grands-parents, c'était ma passion, parce qu'en fait, il y avait cette femme, souvent, qui venait et qui se pendait par les cheveux à la fin et qui faisait des grands cercles comme ça,
mais
avec
c'est pas
ses
de
cheveux.
La magie, ça.
Ah non, j'ai pas expliqué la magie. Je dis que c'est ce qui clôturait le grand cabaret du monde. Mais t'avais toujours. Alors moi, je regardais donc pour Shirley Dino, bien sûr que j'adorais, et j'aimais beaucoup la blague du bras de Shirley. Là, ça c'était vraiment. T'avais Dino qui lui prenait le bras, qui faisait blablabla, parce qu'elle avait le blanc
bras qui pendait.
Enfin, qui pendait. Donc à l'époque, je trouvais ça hilarant. Et
la source de l'humour de Kalindi.
Cette origin story. Donc il y avait ça et il y avait Dani Larry, parce que j'ai dit Dani Larry. Dani Larry, il arrivait toujours à un endroit mais incroyable du cabaret, tu vois. Et puis il faisait aussi bien du siège de bide que de la carte, que de la piécette, que du lapin. Enfin, c'était un magicien. Et vous saurez, pour la petite anecdote, qu'il vient de chez vous, Mimi. Il vient, en effet, mais tu le sais, ça.
J'allais dire, je crois que Dani Larry est une des très rares célébrités d'origine valentinoise.
Exactement.
D'autour de Valence dans la Drôme. Lui est le chanteur de Dionysos. Voilà.
Ah, c'est ça, Exas, non?
Non, on pourrait croire, hein. Je vois d'où te vient l'idée, mais non, pas elle. Peut-être était vers le chapiteau de la semaine cirque, mais.
Non, je crois qu'elle a fait des concerts.
Oui, beaucoup.
Ça, beaucoup.
Ça, oui. Et elle a un public.
Camille n'était pas contente parce que ça avait piétiné les sols.
Ah,
et elle était là, voilà, elle a piétiné les sols de ma belle Valence, et du coup, c'est terrible. Voilà, donc c'est ça l'anecdote. Très bien. Mais Daniel Harry vient de là-bas, en effet.
Eh ben merci.
Eh ben c'est vraiment que des enfants ultra talentueux.
Région du talent, voilà, ça s'exprime comme ça aussi.
Bah c'est top, hein.
Ah, et fin d'anecdote. Anecdote finale pour finir ce. Tout a commencé parce que J'ai dit à mon mec, je vais pas vous mentir, on n'était pas 100% sobre, c'est un samedi soir, je lui ai dit, tu veux pas qu'on mate des tours de David Copperfield? Sans contexte comme ça, il m'a fait, je suis chaud, parce que c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime, c'est qu'il est globalement toujours chaud. Et on a maté le tour où David Copperfield fait disparaître la statue de la liberté.
Ah ouais.
Il a fait un tour où en fait il a mis des gens, et c'était filmé à la télé et tout, bon ça date un
mais
peu.
Mais c'était annoncé grave, années 90, je me souviens 2000. De ça, genre, ouais. C'était un truc genre, samedi sur TF1, David Copperfield va faire disparaître la statue de la liberté, les gens étaient.
Bah, c'est-à-dire que c'est quand même un événement, quoi.
C'est un gros machin, quoi, ouais. Le truc. Et en fait, il fait effectivement, donc il y a les gens devant la statue de la liberté, il met un, donc dehors, sur la baie, là, ou je sais pas quoi, il met un rideau, et quand il enlève le rideau, il n'y a plus la statue de la liberté, et en plus, il fait passer des faisceaux lumineux pour qu'on voit bien qu'il n'y a plus rien. En fait, il y a le socle et tout, mais il n'y a plus rien.
C'était l'invention du fond vert.
J'étais au bout de ma life, clairement, j'étais au bout. Et là, mon mec, que j'aime d'un amour pur, mais qui est un peu con des fois, ce con, il fait quoi? Il google comment David Copperfield, machin. Et on a, du coup, on a vu une vidéo YouTube qui expliquait, on était là. Ah.
Oh ouais. Non, c'est des miroirs.
Bon. Ouais.
Non, c'est pas des miroirs. Oh. Tu vois, ça, c'est un move de Penn & Teller. C'est des miroirs? Non. Eh bien, tu vas à Vegas avec Martino, bravo. Non, non, c'était pas des miroirs, mais c'était quand même très décevant. Donc ne googlez pas les tours de magie, voilà.
C'est précisément ce que je vais faire en sortant ce podcast.
C'est clair.
Ouais, tu veux, je te l'expliquerai.
Ouais.
J'essaierai d'y mettre un peu plus de fun que le mec de la vidéo qui était clairement blasé de la vidéo.
sous le destructeur de magicien.
Alors, il a pas utilisé des miroirs. Il a mis un rideau où il avait peint la statue de la liberté et puis il l'a enlevé. En fait, c'était dans sa chambre.
Je pense que c'est la fin de ce kiff. Merci de m'avoir laissé digresser autant sur la magie, c'est ma passion.
C'est trop mignon, j'adore. T'es tellement passionnée, oui. T'es incroyable.
Je vais faire un one woman show juste sur toi. Ouais. Et je lirai des textes russes en faisant de la capoeira comme ça et en lançant des piécettes aux gens, ça va être extraordinaire.
Ah ouais.
Je vais essayer de trouver tous mes centres d'intérêt vraiment niche, tu vois, et spécifiques pour enrichir ton spectacle.
Merci beaucoup.
2021, à mon avis, on a une heure.
Top.
Avec un clown diabolique, histoire de.
Ah oui, il faut mettre du Stéphanie. On va brainstormer.
Évidemment.
Top.
Bah, merci beaucoup en attendant ce brainstorm. Oh, Cédric, je propose que tu fasses ton kiff.
Yes, de ouf. Alors, mon kiff, en fait, c'est un jeu vidéo.
Oh
que j'ai...
Mais non. What the fuck.
Non, qu'il y a une...
C'est les pires. Mais en fait, tu cherches un job chez Mademoiselle en chroniqueur jeux vidéo, je crois.
J'y vais.
C'est ça que tu veux faire, Cédric.
Non, en fait, l'histoire, c'est rigolo, c'est que je l'avais acheté à la base parce que mon petit, là, il commence à grandir. Et du coup, je me disais, bon, vu que moi, j'aime bien les jeux vidéo et machin, je vais trouver un jeu où il peut regarder un peu et il kiffe. Et du coup, en ce moment, il est en train d'apprendre les planètes. Des fois, il a des kiffs. Et je me suis dit, je vais acheter un jeu qui se passe dans l'espace. Un truc que j'avais vu depuis un moment qui s'appelle, et c'est là le kiff, Outer Wild. Je sais pas comment en traduire.
Ah,
mais on est d'accord que
Outer Wild.
Outer
Wild.
L'idée, c'est pas d'avoir un jeu auquel tu peux jouer avec ton fils. C'est, il aime bien les planètes, donc autant prendre un jeu avec des planètes comme ça, il regarde.
Il peut pas jouer, il a encore la dextérité d'un chameau pour l'instant.
On a le
batros.
Mais
donc du coup j'ai acheté ce truc là et en fait je suis complètement tombé sous le charme de ce bidule. Qu'est-ce que c'est Outer Wild? C'est un jeu indé qui est sur PS4 et pas mal d'autres consoles.
Ouais, littéralement toi tu joues sur PS4.
Moi j'ai joué sur PS4 et
t'as pas cherché.
Sur PC,
il est dispo, cherchez, voilà.
PC, Switch, 2-3 autres trucs.
Switch?
La Nintendo
Switch.
Ah, oui.
Et en fait l'histoire de Outer Wild, c'est qu'on est on incarne un extraterrestre qui, dans sa planète, ils viennent de lancer le premier programme d'exploration spatiale. Et donc, on incarne un extraterrestre qui, donc, ils viennent de lancer leur premier, programme d'exploration spatiale. Et donc, c'est ton premier vol. Et tu prends un vaisseau spatial qui est fait avec un petit peu de bois, des trucs, tu vois, t'as un espèce de côté un peu steampunk sur le machin. Et tu prends ton vaisseau, tu regardes un peu, tu fais un tour dans le village pour que les gens ils t'expliquent comment ça marche, puis t'es armé, ça y est, c'est parti. T'as deux outils, un truc qui est un espèce, je sais pas, de jumelle auditive, quand tu le pointes dans l'espace, tu peux capter des sons dans l'espace, après tu peux aller regarder ce qui se passe.
Trop stylé.
Et t'as un espèce de truc que tu peux lancer, qui fait des photos et qui fait de la lumière. Une fois que t'as armé de ces deux trucs-là, tu prends ton vaisseau, tu te barres dans l'espace, et y a là, amuse-toi. Et ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de but. C'est que tu t'explores. Le jeu, tu te promènes. Donc, ma première mission, la première fois que j'avais joué, j'avais mon bonhomme, je l'ai fait sauter dans un geyser d'eau. Il est allé très haut dans le ciel, il est retombé, il est mort. sans quitter la planète, d'ailleurs.
Super.
C'est la première planète chez moi. Et donc, après, j'ai pris le vaisseau, je suis parti me balader. Et quand j'étais petit, vraiment, ça me faisait. J'avais trop envie d'avoir ce type de jeu où tu peux être sur une planète, partir dans l'espace sans que ça s'arrête, aller sur d'autres planètes, s'arrêter, machin. À l'époque, c'était impossible.
il y avait pas les ressources. Et donc ce truc-là, c'est exactement ça. Tu vas dans ton petit vaisseau, tu décolles, tu sors de la gravité et de l'atmosphère de ta planète. Tout d'un coup, t'es dans l'espace, tu vois le soleil, tu vois 5-6 planètes qui tournent.
Mais attends, parce qu'avant, ils faisaient comment ? Genre juste, t'avais un écran qui disait attention, vous êtes en transfert.
Non, mais en fait, avant, ça existait. Il y avait pas trop. Tu vois, il y avait pas trop de toute façon la capacité de faire ce genre de choses, quoi.
Mais maintenant, non, mais oui, c'était un peu comme au cinéma, ouais. Tu vois, c'était on va montrer les astronautes décoller et atterrir dans le plateau la Lune, mais on n'a pas les moyens de montrer le voyage. D'accord. Et là, du coup, il y a les moyens de le montrer et de le rendre un peu intéressant et que ce soit pas juste.
En plus, là, c'est vraiment le côté, t'es dans ton vaisseau, tu te promènes, tu te balades, tu sautes, t'as un petit jetpack, tu rentres dans ton vaisseau, tu décolles, tu vas dans l'espace, t'as pas de temps de chargement, tout ça se fait de façon totalement seamless, là, fluide. Tu sors de l'atmosphère, tu vois le soleil. Autour du soleil, tu vois des planètes qui orbitent. Et donc, c'est un système solaire où tu as genre 5-6 planètes. Et chaque planète, elle a un peu sa spécificité. T'as deux petites planètes qui se tournent autour du soleil. Et t'en as une qui est du sable. Et le sable, il se fait aspirer par la gravité de l'autre planète. Donc, au fur et à mesure du jeu, t'as la planète, elle se vide de son sable. Et l'autre, elle se remplit de sable.
C'est ouf, j'ai une notion de temps.
Ouais. Et donc, t'as une autre planète d'eau avec des tornades et tout ça qui tournent dedans. Et t'as plein de trucs. T'as une grosse planète chelou qui ressemble à une feuille, une espèce de grosse, je sais pas, de fleur bizarre. Et dedans, il y a des espèces de monstres un peu chelous. Et donc, au début, j'étais là, j'essaie d'apprendre à manier mon vaisseau. Je me fais un peu aspirer par le soleil, je me casse pour pas m'écraser dans le soleil. Et au bout de 20 minutes, tout le ciel devient tout bleu et le jeu, il recommence. Ça repart. Et en fait, c'est parce que dans l'histoire de ce jeu, il y a une sorte de boucle temporelle où au bout de 22 minutes, le soleil il se transforme en supernova, il explose, ça absorbe tout. Et là, tu reviens au début, aux 22 minutes plus tôt, quand tu te réveilles à ton feu de camp et tu repars en exploration.
Mais c'est horrible.
Et non, et en fait, tout le jeu, il est basé sur ce concept de il y a une time loop, une boucle temporelle. Et en fait, tu dois essayer de comprendre pourquoi.
C'est un jour sans fin.
C'est un jour sans fin dans l'espace, c'est le jour de la marmotte dans l'espace. Et en fait, comment tu dois comprendre pourquoi ? Ben en fait, en te promenant, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. C'est juste toi qui prends ton vaisseau, qui va sur les planètes, qui explore, qui essaie de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il y a une vieille civilisation extraterrestre.
Hein.
Non, c'est okay. Vraiment le début, ça, c'est dès le début.
Putain, mais c'est ouf. J'ai trop envie de savoir pourquoi, là.
Qui s'appelle les Nomai, qui ont des ruines un petit peu sur ta planète. Et en fait, t'es le premier astronaute, t'es le quatrième astronaute du système, là, du programme spatial, tu vois. Et t'es le premier à avoir un traducteur Nomai. Et donc, après, tu te balades et tu cherches des ruines Nomai un peu partout et t'essayes de comprendre ce qui se passe. Et en lisant les ruines Nomai, des fois, ça te dit... Donc, c'est une vieille civilisation. Ils ont disparu il y a, des millions d'années. Tu sais pas trop pourquoi, ni comment, ni quoi.
Je vais dire un truc. C'est peut-être un spoiler, mais je le sais pas. Donc, je pense que j'ai le droit de le dire. Je suis sûre qu'à la fin, le twist, c'est que les Nomai, c'est nous. Genre, c'était les humains.
Et non, parce que t'as des statues de Nomai au début. T'as une statue de Nomai dans le musée. Et c'est une forme, c'est des sortes de...
Il n'y aura pas à Vegas.
J'ai jamais le droit d'aller à Vegas.
No Vegas for you. Non, le Nomai, c'est une forme de bélier avec un troisième œil au milieu. Et toi, l'extraterrestre que t'incarnes, c'est une sorte, je sais pas, de grenouille humanoïde avec quatre yeux. Et du coup, ils sont là, ils font, mais pourquoi il leur manquait un œil au Nomai? Genre, qu'est-ce qu'il... Il devait pas bien voir et tout, t'as des blagues comme ça. Et donc, en fait, tu te barres avec ton vaisseau et après, avec l'espèce de jumelle auditive, tu peux entendre les autres astronautes qui sont partis avant toi. T'en as un qui joue du banjo sur une planète là-bas, t'en as un autre qui joue de l'harmonica sur une planète là-bas, t'en as un dernier, il siffle, ou je sais pas c'est quoi son instrument. Et quand tu le pointes, il est à deux endroits en même temps dans l'espace. Et tu fais, ok, what the fuck? Et donc après, tu peux suivre avec ton vaisseau, là, par-ci, par-là, essayer de les trouver, discuter avec eux. Et quand tu creuses et que tu cherches les ruines Nomai, t'apprends plein de petites choses. Genre, en fait, nous, on avait construit une cité dans cette planète-là, mais elle se remplit de sable tout le temps. Il faut y aller avant que le sable rentre trop vite. Donc tu fais, ah ok, enregistrement. La boucle temporelle d'après, quand la planète, elle est encore pas remplie de sable, et ben tu fonces dedans avec ton vaisseau. T'essayes de trouver les cavernes, tu sors de ton vaisseau, t'as ton petit jetpack, t'es 5 minutes d'oxygène et tu te balades et t'essayes d'aller trouver. Et du coup, en fait, tu trouves jamais des nouveaux objets et toutes les mécaniques du jeu, elles sont tout le temps les mêmes. Et plus au fur et à mesure que t'avances et que tu comprends comment marche l'univers, et ben, tu sais comment aller dans des nouveaux endroits. Pas parce que t'as appris pas parce que t'as des nouveaux objets, mais parce que tu comprends maintenant comment le monde fonctionne.
C'est un jeu de scientifique, quoi.
Et ben, c'est un jeu, en vrai, ça fait ultra longtemps que je ne m'étais pas senti vraiment en exploration et en découverte devant un jeu vidéo. Et c'est oufissime. Et ça m'a
ça a l'air vraiment, trop
je suis
bien.
Tombé dedans par hasard. J'ai passé, je sais pas, 15 heures, et le petit Jojo à côté, il fait « Ouais, on joue au jeu de l'espace, on va sur la planète avec les tornades. »
Trop bien.
Trop mimi.
Et
c'est
t'as,
trop fou.
Et t'as des moments trop, trop ouf, quoi. T'as des moments d'exploration. Il y a une comète aussi qui tourne dans le truc. À la 20e minute, elle s'écrase dans le soleil parce que le soleil, il a trop grandi. Et en fait, la comète, sur deux ou trois tours, quand elle avance près du soleil, la face de devant de la comète qui est glacée, en s'approchant du soleil, ça fait fondre un peu la glace et tu peux te rentrer dans la comète. Mais c'est quand ça s'approche du soleil. Et donc, tu dois descendre et là, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs, plein d'autres histoires. Et tout le temps, ça...
Je spoil pas trop, hein.
Non, mais je spoil rien du tout. Et tu vois plein de matières, des infos. Comment ?
T'as trouvé ?
Ouais, ça y est, j'ai fait toute l'histoire, j'ai tout découvert. Et c'est trop bien parce que
Ah non, mais Cédric,
Alice, c'est intense.
Incroyable.
Tu regardes Cédric, on dirait que tu vas l'engueuler. T'as trouvé ou pas ? Tu me dis, c'est quoi le truc maintenant ?
On voit pas ma bouche, mais je fais genre
c'est
ça.
Ouf, c'est que c'est ultra passionnant parce qu'à chaque fois, tu creuses un petit peu dans l'histoire et le seul truc qui se remet pas à zéro à chaque boucle temporelle, c'est l'ordinateur de ton vaisseau qui enregistre les infos que t'as eues et te les réorganise soit par planète, soit en rumeur, en disant t'as trouvé ça colle à cette histoire-là. Il y a des trucs des fois chelous, genre tu regardes le ciel, il y a une lune autour d'une planète, tu regardes ailleurs, tu reviens, la lune elle est plus là, elle a changé de place. Tu fais what the fuck, c'est quoi ce truc ? Quand t'essayes d'atterrir dessus, elle disparaît. Tu fais, c'est quoi le bordel de cette lune ? Qu'est-ce qui se passe ? Au fur et à mesure, tu vois d'autres morceaux de la lune qui sont là, tu fais mais pourquoi tout change de place à chaque fois, je regarde pas. Et petit à petit, tu comprends pourquoi. Et quand tu connais les mécaniques, après, tu peux figer la lune pour pouvoir y atterrir et tout. Et le jeu n'a rien changé. Les mécaniques de jeu n'ont pas changé, sauf que toi, tu sais comment ça marche.
C'est fou.
Et ça coûte cher, ça.
Ça coûte 20. Ça a l'air ouf.
Ça coûte. Moi, je l'ai acheté 15 balles sur PS4.
C'est
pas
cher du tout.
20 balles sur Switch.
Bon. Franchement, si en plus tu ça dis qu'on peut le faire en 15 heures et tout, je vais peut-être faire ça pendant mes vacances de Noël là.
Mais surtout, en plus, juste le fait de se balader dans l'espace, de voir les trucs. Et franchement, ça, c'est le tout début de l'histoire. Il y a un moment, t'as une planète qui se prend. T'as une grosse planète qui a la surface fragile. Elle a une lune volcanique. Et la lune volcanique, pendant le cycle de 22 minutes, elle envoie des bouts de lave qui partent. Les bouts de lave, ils sont aspirés par la gravité de la planète. Et du coup, ça défonce la planète petit morceau par petit morceau. Donc toi, une des premières fois, j'avais posé mon vaisseau, je sors, et puis tout d'un coup, je peux pas y retourner parce qu'il y avait des gros trous dans le sol, je fais what the fuck. Et en fait, au centre de la planète, il y a un trou noir. Et je fais, vas-y, je saute. Et donc vraiment,
c'est
ce moment-là...
T'es quand même en minute 1 dans de l'eau, et tu te dis, je vais sauter dans le trou noir, on sait pas.
Et en fait, ce moment-là où tu te dis, vas-y, hein, qu'est-ce qui se passe si je saute dans un trou noir ? Et du coup, tu sautes dans le trou noir, et il se passe plein d'autres trucs, et t'es là, tu fais, ah ouais. Donc là, je suis à 200 km de mon vaisseau. Mais donc, c'est mort pour cette partie-là, pour ce time temporel-là. Mais j'ai appris une nouvelle info. Et au fur et à mesure, tu commences à piger comment toutes les mécaniques du machin fonctionnent. Et c'est génialissime. Mais vraiment génialissime.
En tu plus, le vends super bien, en tout cas.
Le Jojo à côté, il était là. Ouais, va dans la tornade. Va dans l'autre tornade.
Toi, tu sais. Et est-ce que c'est le genre de jeu où tu prends des notes pendant pour pas oublier les trucs, ou est-ce qu'en vrai tu arrives
à tout
souvenir?
Tout est dans le vaisseau. L'ordinateur du vaisseau, il enregistre toutes les infos et il t'aide un peu à les mettre ensemble. Donc du coup, c'est très narration non linéaire. Tu te barres et
voilà. Ah, attends, ton kiff, c'est un jeu vidéo non linéaire.
Tout se connecte. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est genre si aujourd'hui je relance le jeu from scratch, je peux finir le truc au premier run parce que je sais comment tout l'univers fonctionne.
Ah oui, parce que ça se joue qu'une fois, quoi. C'est comme les escape games.
Ouais, après ça se joue aussi juste le fait de se balader, de voir les comètes, les trucs comme ça. En vrai, c'est un kiff. Rien que pour le côté, explorer,
putain,
regarder,
ouf.
En prendre plein les mirettes, ça marche.
Trop bien.
Trop hâte d'être deux ans et demi où tu nous expliqueras qu'en fait c'était une métaphore du changement climatique que t'avais pas compris.
Ouais, c'est clair.
Mais en fait, par contre, du coup, une fois que t'as compris, tu peux pas changer les choses. Genre, tu peux pas faire arrêter la faille temporelle.
Bah, ça, c'est un peu genre une des sorties de l'histoire, c'est de voir effectivement maintenant que t'as compris tout ça, pourquoi il y a cette faille, pourquoi il y a ce truc là qui se met en place, à quoi ça intéresse, pourquoi il y a une boucle temporelle. Parce qu'en fait, tout ça a une explication. Et du coup, tu peux essayer de creuser, aller chercher, rentrer dans des univers quantiques, des trucs. Vraiment, tu te balades.
Tu m'as perdu là, ça y est.
Bah, c'est justement les fameux secrets des trucs qui disparaissent quand tu les regardes pas. En fait, au fur et à mesure, tu comprends où c'est, pourquoi tu peux les garder en place, comment tu pourrais voyager dessus. Et en fait, ça débloque toute une partie de l'histoire qui relie aux ruines des Nomailles du début. Et tu fais, ouais, de ouf. Wow, qu'est-ce qu'ils foutaient là ? Pourquoi ils ont fait là ? Qu'est-ce qu'ils ont creusé ? Et pourquoi à chaque fois que tu te réveilles, tu as une vision sur la grosse planète verte avec un truc énorme qui est dessus, qui explose. Et c'est la première vision que tu as à chaque fois que tu te réveilles, tu sais pas pourquoi. Et au fur et à mesure, tu comprends ce qui se passe. Et c'est trop, trop, trop bien.
Trop bien, wow. Ça a l'air trop cool.
Ah, ouais, ça a l'air trop, trop bien.
Je crois que je vais commencer une liste de jeux vidéo dont Cédric a parlé dans Laisse-moi kiffer, auxquels j'ai envie de jouer, parce qu'il y en a beaucoup, pas Céleste, mais il y en a beaucoup. Et j'en ai fait aucun. Donc je te tiendrai au courant.
Ça, c'est, franchement, c'est dans liste numéro 1 de la liste. C'est trop, trop bien.
Ok.
Bah, trop bien, merci beaucoup, Cédric.
Voilà.
Quel kiff incroyable.
Ouais.
Kalindi.
Ouais. Alors je peux faire un minimum
elle a ouvert son ordi
un minimum d'enthousiasme en plus.
Ah non mais j'étais en train de réfléchir. Déjà j'ai un mini kiff, c'est juste que en venant ici non mais c'est tout petit hein. En venant ici, j'étais dans le métro et j'avais un peu le seum d'être dans le métro, bon voilà. Et là il y a trois joueurs de merde putain d'accordéon qui ont commencé qui ont commencé à chanter qui sas et qui ont enchaîné sur plein de chansons et alors vraiment tout le monde faisait la gueule de ouf et moi en fait vraiment j'adore l'accordéon et genre vraiment les trois et genre les trois ensemble qui faisaient l'accordéon en plus c'était pas les mêmes accordéons, ils avaient pas les mêmes sonorités et tout et franchement moi j'étais embarquée, je donnais 8€ vraiment genre comme quoi j'avais pas envie de bouffer moi mais vraiment d'ailleurs j'ai demandé de l'argent à Cédric après pour m'acheter un Kinder Bueno.
On est sur une gestion budgétaire toujours on point. Hein.
Mais alors, Théorique ça m'a mis d'une bonne humeur. Et alors, à la fois, ça m'a mis d'une bonne humeur. Et de l'autre côté, je voyais tous ces gens qui faisaient la gueule et qui faisaient semblant d'ignorer ces trois êtres humains qui étaient en train d'essayer de nous procurer un peu de joie. Ils ont chanté Jingle Bells et tout. Moi, j'étais à fond. Voilà, donc ça m'a fait plaisir. C'est mon mini kiff. J'enchaîne Merci. Sur mon kiff.
J'ai pas de rapport hein, avec le deuxième kiff.
Ah, aucun, aucun.
Ah, d'accord. Aucun. C'était juste ça qui a pensé.
Ah, oui, ouais. Voilà, c'est ça.
Merci pour ce moment.
Est-ce que l'accordéon, c'est un peu la cornemuse
française.
Oui. Française.
Oui.
Ouais, hein.
Bah, c'est l'instrument cliché, quoi. Voilà vos avis en commentaire 5 étoiles.
Bienvenue dans une faille spatio-temporelle de LMK. Alors, c'est très bizarre ce qui nous est arrivé, puisqu'on a tourné le LMK numéro 121 avant les annonces gouvernementales concernant le confinement. Et on pensait à l'époque que les cinémas allaient rouvrir leurs portes le 15 décembre. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Kalindi avait donc fait un kiff sur un film qui allait sortir à cette date-là. Donc, on va refaire un kiff pour Kalindi. Kalindi, bonsoir.
Salut, Alex Martino. C'est bizarre, on est tous les deux dans cette pièce. Voilà. Il manque plein de gens, mal habillés.
Il manque Cédric et Mimi. Mais du coup, on va quand même te faire refaire un kiff. Parce qu'on va pas non plus te couper la parole dans cette émission.
Non,
et tu referas ton kiff sur le cinéma.
Bien sûr, en temps et en heure.
En temps et en heure dans un autre épisode.
Alors moi, mon gros kiff, et c'est très rare que je fasse ça, je vais faire la promotion de quelque chose que j'accomplis moi-même.
Oh,
c'est dingue.
C'est
et un truc que je voulais faire depuis longtemps, et c'est les ateliers d'écriture Mademoiselle. Donc ça mûrissait dans nos têtes avec les nouvelles bosses de Mad depuis quelques mois, de faire un atelier d'écriture. Parce que moi, mon idée, c'était, en fait, j'ai toujours voulu m'inscrire à un atelier d'écriture. Le truc, c'est que de un, c'est cher, ça coûte la peau du cul. De deux, souvent, c'est des résidences où il faut aller pendant 3 semaines, 1 mois en Toscane. Alors j'ai rien contre ça, mais j'ai pas 3 semaines à passer en Toscane pour 100 000€. Du coup, je me suis dit, c'est très bien de pouvoir avoir des ateliers d'écriture qui soient pas chers, qui soient faits avec des autrices cool. Et du coup, chez Mad, on s'est dit, bah, pourquoi pas lancer les nôtres, que je présiderai, en tout cas, que j'animerai, puisque c'est mon idée, tout simplement, voilà. et parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et on a eu notre première édition. Alors déjà, je vais vous pitcher un petit peu comment ça se passe, les ateliers d'écriture Mademoiselle. Pour l'instant, ça se fait en visio. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons nous retrouver dans une vraie salle.
Oui, quand même.
L'idée, c'est que l'atelier se découpe en... Alors, au début, on avait dit 2 heures. Là, ça a duré 3h15. donc, il y a une première partie où j'interview une autrice. On a eu la chance, pour la première édition, d'avoir Capucine Delatte, que tu avais interviewé, Alix, pour 20 ans d'âge.
Tout à fait. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Vraiment, c'est une meuf qui a 20 ans et qui a publié son premier roman, là, cette année.
Et c'est le premier roman qu'elle a publié des 5 qu'elle a déjà écrit. Donc, la meuf écrit tout le temps et depuis toujours, donc c'est assez impressionnant. Donc en fait, la première partie, c'est moi qui interview l'autrice, qui va raconter comment est née sa passion pour l'écriture, comment elle s'est fait publier, c'est quoi les bails avec les éditeurs et comment on gère les retours critiques. Donc c'est moi qui anime ça, mais bien sûr les autres participantes à l'atelier peuvent poser des questions en direct sur le chat. Donc c'est très interactif, on n'est pas, il y a pas juste moi, et c'est pas une masterclass en bonne et due forme, tout le monde peut participer. C'est très ouvert, c'est très libre, le but c'est que personne se fasse chier quoi. Après ces 45 minutes d'interview, les participantes vont lire leurs textes, des textes sur un thème imposé que moi j'ai donné un mois auparavant. Donc voilà, on a un mois pour écrire ce qu'on veut en fait. Moi je donne un thème là par exemple, c'était l'amitié féminine. En fait, l'idée, c'est que la forme est libre. Ça peut être un article, ça peut être une nouvelle, ça peut être un pamphlet, ça peut être une poésie, ça peut être un billet d'humeur. C'est absolument la forme que vous voulez. Je voulais écrire deux mots, vous le faites.
Après, c'est moins rentable, quoi, d'écrire deux mots.
Après, c'est moins... voilà. Faut faire preuve d'une concision à toute épreuve.
Oui, c'est ça.
Et du coup... voilà, donc pendant deux heures, les meufs peuvent lire leur texte, une heure et demie, deux heures. Elles lisent leur texte et bien sûr, après, l'autrice qui est invitée et moi-même faisons des retours sur ce qu'on pense de la forme, du fond, avec la bienveillance la plus totale, bien sûr. Et évidemment, les autres participantes peuvent réagir pareil en direct sur le chat et dire « Voilà, j'ai trouvé que ce personnage, il était top. Voilà, j'aurais peut-être pas mis du conditionnel. T'as peut-être un peu abusé du participe passé, mais alors là, ouais, qu'est-ce que je me
suis dit ?» C'est que des petites blagues d'intello, quand même.
Ah, c'est pas des blagues, mais c'est quand même, tu vois. C'est un atelier d'écriture, quoi. La première édition s'est tenue fin novembre. Et donc en visio, c'était un samedi soir, parce que l'idée, c'est de faire ça un samedi soir par mois, devant une bière, voilà, on se connecte sur Zoom, et puis c'est sympa. Et j'avais un peu peur, parce que moi, j'avais jamais animé ni de table ronde, ni d'atelier. Donc j'avais peur de pas bien le faire. J'avais peur que les meufs soient trop timides pour oser se parler les unes les autres, voilà. Et en fait... j'ai eu affaire à un groupe extraordinaire de meufs super motivées. Il y avait de tout, c'était ultra éclectique, tu vois. Il y avait plusieurs meufs qui écrivaient depuis toujours, d'autres meufs qui n'avaient jamais écrit, d'autres meufs qui avaient écrit, qui s'étaient arrêtées très longtemps, puis qui avaient écrit sur le thème que je leur avais imposé une heure et demie avant l'atelier, qui m'ont rendu un truc extraordinaire. Et en fait, vraiment, je trouve que de lire un texte, c'est pas du tout pareil que de lire un texte. Et là, lire un texte à l'oral,
c'est pas du tout pareil que lire un texte.
Lire un texte à l'oral, ça n'a pas du tout la même saveur en tout cas entendre un texte, ça n'a pas la même saveur que le lire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, en l'occurrence, toutes les meufs qui sont venues présenter leur texte et les dire, eh ben, tu vois, tu te laisses emporter par l'histoire, puis t'as la tonalité de la voix, t'as le ton de la voix, t'as l'énergie, t'as l'intention et la sincérité, en fait, de la personne qui a écrit. Du coup, j'ai franchement capuciné moi et toutes les autrices de cette édition-là ont été assez bouleversées par ce qui se passait. Je sais pas, il y a eu une émulation, il y a eu une, franchement, j'aurais voulu que tout le monde participe à cet atelier parce que vraiment, il y a eu de l'émotion, quoi. Et au bout de trois heures, il a fallu que ça s'arrête parce que quand même et c'était trop bien et toutes les meufs m'ont dit franchement merci pour ce moment. J'étais là merci à vous parce que il faut avouer que tout le monde était super. Évidemment qu'il y avait des, enfin alors moi j'étais pas là pour juger les textes, c'est pas mon métier, mais Capucine qui a sorti un bouquin leur a donné des retours hyper cohérents et hyper
constructifs.
Hyper constructif. Et moi, j'étais là, franchement, en tant que juste lectrice et dévoreuse de bouquins, juste moi, j'ai kiffé de ouf. Je trouvais que ce que vous faisiez, c'était super, que chacune y avait mis énormément de sa sincérité, en tout cas. Et tout était très différent. Je me suis dit, moi, l'amitié féminine, j'avoue, c'est pas moi qui ai choisi le thème, j'aurais pas choisi ça. Je me suis dit, ça va être cucul à praloche. Au final, mais tout le monde a été... tout le monde y allait de sa patte, quoi. Donc j'ai eu en effet un article, j'ai eu un poème, j'ai eu des textes d'amitié folle sur fond de guerre. Enfin, j'ai eu des trucs. Enfin, moi j'étais là, waouh, j'étais hyper impressionnée de bout en bout, quoi, de ces trois heures et des bananes. Donc c'était une super belle édition et je suis sûre et certaine que les prochaines seront tout aussi qualitatives. Donc vous qui nous écoutez, n'hésitez pas si vous avez envie de participer aux ateliers d'écriture Mademoiselle et rencontrer des autrices que peut-être vous aimerez ou que vous connaissez ou peut-être que vous allez juste découvrir et passer un moment avec d'autres meufs qui pourront lire ce que vous écrivez, écouter, puisque l'idée aussi c'est qu'on a un Discord qui est prévu à cet effet où les meufs peuvent pendant tout le mois parler de leurs interrogations, peut-être du syndrome de la page blanche, celui de l'imposteur, etc. Et ensuite, elles postent toutes leurs textes et l'idée, c'est que l'autrice et moi-même choisissons un texte qu'on trouve le plus beau ou le plus pertinent par rapport au thème et on le publie sur Mademoiselle. Donc, c'est chouette parce que c'est aussi parfois une première publication. C'est hyper sympa. C'est se confronter au regard d'un public schéma dont on sait qu'il est ultra bienveillant. Donc, c'est que bénef. Donc, voilà, j'espère que ça va. Enfin, moi, j'ai kiffé l'animé. J'ai vu que tout le monde avait kiffé y participer.
Ah, mais ouais, je me souviens, t'as été ultra enthousiaste quand tu m'en as parlé direct après. Et moi, ça m'a donné trop envie de m'inscrire. Enfin, enfin moi j'avais enfin pour le coup j'ai fait plusieurs ateliers d'écriture, je crois que j'en avais même fait un kiff dans Laisse-moi kiffer, mais enfin moi ça fait longtemps que j'en fais et j'aime trop ce côté, c'est comme tu dis, c'est une petite bulle qui se crée. Mm-mm. et c'est hyper différent en fonction des gens qui sont là, tu vois, et tu te retrouves à faire des trucs bah super différent toi-même, tu vois, ça te challenge. Et moi j'ai toujours eu peur avant d'aller à des ateliers d'écriture où je connaissais personne ou même enfin au début, tu vois, quand t'en as jamais fait de ta vie, tu te dis j'ai pas envie de lire mes textes. Et ça c'est vraiment pour moi la plus grosse épreuve, c'était de lire mes textes. Et aujourd'hui je peux plus écrire de textes sans les lire à quelqu'un, parce qu'en fait ça te donne tellement déjà ça te corrige immédiatement, ouais, tous les trucs qui sont soit répétitifs, soit lourds, soit tout ce que tu... En fait, tu te rends compte hyper vite de tes erreurs en les lisant.
Ouais.
Et puis, tu peux donner un ton. Et moi, je me souviens d'ateliers d'écriture où vraiment, j'avais été, bah, comme tu dis, en fait, ultra émue. Et même de mes propres textes, la meuf, elle est là, ouais, c'est écrit.
Mais non, mais c'est, en fait, c'est ça, c'est l'opportunité de d'être fière de ce que tu produis, tu vois.
C'est ça.
Et j'ai vu la fierté chez les nanas, donc j'étais là, bah, vraiment.
Et c'est toujours. Et comme tu dis, les retours sont toujours ultra bienveillants. Enfin, tous ceux que j'ai fait, j'en ai fait à Paris, j'en ai fait à Nantes, j'en ai fait à La Roche-sur-Yon. À chaque fois, les gens, quel que soit leur âge, quel que soit leur... En fait, ils ont toujours des retours bienveillants.
Mais oui.
Et après, t'en as des plus ou moins constructifs. Alors moi, j'aime bien quand on me dit, bah, il y a ça, tu pourrais changer et tout, machin. Donc j'aime bien les retours un peu...
challengeant, ouais.
Challengeant, tu vois. Après, il y a des ateliers d'écriture qui font sans retour challengeant. Ils vont, ah bah, c'est super, merci. Et puis, on dit ce qui était bien, mais sans forcément s'atteler non plus à dire... bah ça tu vois c'est de la merde ou enfin je sais pas dire ça ou voilà, mais les retours hyper constructifs comme ça c'est hyper important et ouais ça te lie un vrai truc avec les gens.
Ah ouais, franchement j'ai eu l'impression qu'en quelques heures seulement tout le monde avait, tu sais, c'était déjà un petit groupe qui était en train de naître et je pense que la plupart des filles qui étaient là la dernière fois se réinscriront pour le prochain atelier d'écriture, mais bien sûr il restera des places ouvertes pour des nouvelles personnes, donc faut pas hésiter à s'inscrire. Vraiment moi j'ai passé un excellent moment et puis en fait même, enfin pour moi c'est trop cool parce que c'est l'opportunité d'apprendre plein de choses sur l'écriture fictionnelle qui, ouais, n'est pas, parce que nous notre métier à toi et à moi c'est en partie d'écrire toute la journée et mais en fait l'écriture journalistique et la fiction ça n'a strictement rien à voir, c'est pas clair. Le même exercice, donc c'est se frotter un genre qui se rapproche de notre métier mais qui est pas inhérent à celui-là, donc je trouvais que c'était vraiment passionnant et enfin moi maintenant là j'ai envie de faire que ça tous les soirs, tu vois, des ateliers d'écriture, donc vraiment je vous encourage à venir au mien et si enfin à venir aux ateliers de Mademoiselle et s'il y a plus de place de vous inscrire à d'autres ateliers parce que vraiment en tout cas pour moi c'est une vraie découverte et je pense que je participerai à d'autres qui ne seront pas animés par moi-même du coup, mais pour le coup c'est un très très gros kiff et j'ai hâte de voir, je pense que je vous en reparlerai régulièrement dans Laisse-moi kiffer pour vous tenir un petit peu au courant.
Mais déjà tu peux nous dire combien c'est et tout, un peu les modalités d'inscription?
Alors en fait je peux pas vous le dire parce que je sais pas en fait si la prochaine édition elle se tiendra en ligne ou elle se tiendra
en
face to face, auquel cas les prix seront pas les mêmes donc je préfère pas embrouiller. Mmh. Mais quoi qu'il arrive on mettra dans les notes de ce podcast parce qu'il sera sorti de d'ici là le lien avec l'article qui explique tout bien correctement et vous aurez qu'à lire ça dans les notes du podcast.
Trop bien. Bah merci Kalindi, c'est
rien.
Trop cool. Ouais. Moi ça me donne trop envie de participer.
Peut-être bah viens, jour... mais viens.
Mais peut-être un jour je viendrai, ouais.
Mais oui.
Mais après, ouais. Peut-être au prochain, en vrai.
Mais viens au prochain. Bah attends, c'est dans pas longtemps, hein.
Tu sais ce que c'est le thème ou pas?
Non, oulala, attends, non, oulala. Mais on va décider cette semaine avec les boss, il faut qu'on donne un thème aux participantes, il faut qu'on sache un peu si on fait ça, si on continue en visio, je pense qu'on continuera en visio pour l'instant, on va pas prendre
de
risque.
Et même de découvrir des autrices et
ouais,
des...
Et tout le monde est super gentil. Et puis vraiment, les meufs ont... Alors, il y a une majorité de meufs de notre âge, entre 25 et 30 ans, il y a quelques personnes un peu plus âgées, il y a une jeune fille qui a 16 ans, enfin, vraiment, c'est top de te rendre compte que tout le monde est réuni là juste par la passion, même pas forcément par la passion, donc la jeune fille de 16 ans me disait bah en fait c'est pas spécialement ma passion, j'ai envie de me frotter à un nouvel exercice et bah c'est celui-là que j'ai choisi, donc why not, et le texte était incroyable et j'étais là mais en fait le truc c'est que je trouve que quand tu écris au quotidien. Alors c'est super d'écrire au quotidien, c'est le meilleur exercice qui soit et c'est ce que Capucine expliquait aux filles, c'est que elle même quand elle a rien de spécial à dire, elle écrit chaque jour. On vous a parlé avec Alix il y a quelques temps de la méthode de Julia Cameron qui conseille d'écrire 3 pages tous les matins quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans l'univers, écrire 3 pages le matin. Alors j'avoue, moi j'ai un peu abandonné depuis quelques mois maintenant. Mais bon, nous on a un métier où on écrit tous les jours et toute la journée. Mais du coup, en fait, à force d'écrire toute la journée et tous les jours, on a des tics. Ouais. Tu vois,
puis t'as des automatismes qui t'enferment un peu dans ton truc.
Exactement.
Et tout, ouais.
Sauf qu'en fait, cette jeune fille qui avait jamais écrit, elle a eu une écriture ultra brutale, ultra brute, tu vois, qui était dénuée de fioritures, de conneries. Et en fait, son texte était pur. Et en fait, tous les dialogues marchaient parce que c'est des dialogues de la vie de tous les jours d'une jeune femme de 16 ans, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, je trouve que souvent, c'est le compliqué quand t'écris un peu. Enfin, moi, j'écris un peu de fiction de mon côté toute seule. Et je trouve que ce qui est très compliqué, c'est les dialogues.
Les dialogues, c'est un nom.
Très, très compliqué. Alors qu'en fait, ça devrait. C'est de la musique. Donc c'est juste comment on parle dans la vie de tous les jours, quoi. C'est clair que on n'écrit pas comme on parle, donc ça n'a aucun sens de faire des dialogues ultra chiadés avec un vocabulaire soutenu quand en fait on dit nique ta mère à tous les étages, tu vois. Du coup, cette jeune femme, elle a sorti un truc qui était d'une pureté absolue et presque clairvoyant. Donc j'étais là, ouais, bah écoute, j'en ai pris plein la tronche pendant 2h30, je m'attendais vraiment pas à ça. Et en fait, tu vois que quand les gens mettent de la sincérité dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils écrivent, bah c'est toujours bien, au final, tu vois. Ça va pas forcément gagner le concours, mais on s'en bat les couilles. Personne n'est là pour gagner un concours, tout le monde est là pour s'amuser. Donc, non, vraiment, c'est trop bien. Inscris-toi, viens avec nous.
Mais du coup, vous écrivez pas pendant l'atelier.
Non.
Vous écrivez avant.
Ouais. Il y a un mois pour écrire. Tu viens, tu lis ton texte, tu repars avec la plus-value des conseils de l'autrice. Et puis, tu t'es là aussi pour former un groupe de gens, de faire relire tes autres projets, peut-être, tu vois. Mmh. Le Discord, il est là pour qu'on s'échange des trucs. Enfin, c'est vraiment créer, en fait, une sorte de club d'écriture qui va au-delà de juste les sessions qu'on organise une fois par mois, quoi. Donc, on propose de créer une ambiance et de se relire les unes les autres, parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est ce que Capucine nous racontait. C'est très compliqué de trouver des lecteurs qui soient pas des lecteurs qui sont tes potes et qui vont juste te dire, ah, bah, ça, c'est top, merci.
Ouais.
En fait, qui vont dire, voilà, ça c'est bien, mais là tu vois, c'est de la merde. C'est pas grave, tu vois, faut pas se vexer. Et moi, franchement, l'autre jour, j'ai ouvert, parce que donc en ce moment, je me suis remise un peu à fond dans l'écriture d'un roman que j'écris pour moi-même avant tout. Et en fait, l'autre jour, j'écris chez moi et je me dis, tiens, je vais aller voir ce que j'écrivais avant. Et donc, je me replonge dans le premier livre que j'ai essayé d'écrire. Et donc, j'ai écrit quand même les 2/3. Et donc, j'ai lu vraiment pendant 2 heures ce truc et j'étais là, waouh, qu'est-ce que c'est mauvais! Mais c'est vraiment, mais qu'est-ce que c'est à chier, quoi.
Mais t'es aussi ta pire juge.
Non, il y a des trucs que je fais, je sais que c'est bien, tu vois. Parfois, quand j'écris des articles pour Mad, il y a plein de trucs, quand je me relis, des articles un peu marrants et tout, je me dis, ouais, je suis drôle quand même. Ou alors, ah, bah là, c'est bien écrit, là, c'était un bon trait d'humour, ou là, c'était un bon mot.
Oui, mais ça, c'est une histoire d'humour, tu vois, c'est pas une histoire d'écriture.
Bah non, mais je sais que le style, l'humour, il est porté par le style aussi, tu vois. Donc, je me dis, là, j'aurais pu être lourde, mais en vrai, c'est bien écrit, ce texte. Il y a plein de trucs que je fais. Il y a une, notamment dans le premier livre que j'ai écrit. Donc, en gros, j'ai écrit un chapitre qui décrit une femme extrêmement bizarre, une femme que moi-même j'ai connue et dont je me suis inspirée pour créer ce personnage de dame dans la forêt là. Et en fait, j'ai relu ce chapitre et j'étais là, waouh, ce chapitre est hyper bien. Mais vraiment, il est hyper bien parce qu'il est inspiré d'un truc que j'ai directement vécu, ouais. Et parce que en fait, j'ai voulu raconter le truc sans y mettre des figures de style, sans faire la connasse, tu vois. Et en fait, tout le début de ce roman-là est à chier, mais faut vraiment le barrer et puis le laisser au fin fond d'un disque dur. Mais il y a quand même des bonnes choses, tu vois. Donc je suis, bon, évidemment, on est toujours mauvais juge de son propre travail, mais on a aussi quelques moments de clairvoyance où on est capable de se rendre compte que ce qu'on a fait, il y a des bonnes choses, quoi. Et en l'occurrence, je trouve que au début, quand j'ai relu, j'étais là, j'ai honte et tout. Et après, j'étais là, en vrai, n'aie pas honte. Tu vois, les premiers trucs que t'écris, c'est gaulerie. Et en fait, c'est cool de retomber dessus au détour d'une recherche dans un disque dur un jour et de se dire, ah bah voilà, bah, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à écrire cette merde. Bon, bah, c'est pas grave, ça fait partie de moi, tu vois.
Moi, j'écrivais beaucoup de journaux intimes quand j'étais petite et j'avais retrouvé un journal intime de moi quand j'étais en CP et que j'avais corrigé.
Top.
Quand j'étais en CM2 ou en CM1, tu vois. Donc, je voyais la moi de CM1 qui corrigeait la moi de CP, super énervée, qui faisait des corrections d'orthographe et tout. Enfin, c'est hyper drôle.
C'est mignon.
Ouais, mais du coup, tu vois, genre, je me dis, c'est bien aussi de laisser tel quel tes écrits,
ouais,
pour voir aussi où
ton évolution,
et où tu vas et ce que t'aimes, tu vois. Parce
bien
que
sûr.
Si t'arrives à relire et te dire, bah, ça, c'est cool, tu te dis, ah, bah, je... plutôt me mettre dans ouais. cet état d'esprit pour écrire, tu vois.
Exactement. Et je me dis, tu vois, les trucs que j'ai écrits, les meilleurs passages de ce livre-là, c'est vraiment les passages où, en fait, je me suis pas fait chier avec le style. C'est vraiment, je raconte une histoire. Et en fait, c'est ça avant tout. Tu vas pas. Enfin, moi, j'aime je m'attache au style des gens, évidemment. Mais j'ai surtout envie qu'on me raconte une histoire de dingue. C'est ça qui va me happer. Là, je lis un roman dont je trouve le style très mauvais, mais l'histoire est tellement captivante que je suis là, bon, bah, en fait, fuck. En effet, c'est lourdingue. Il y a trop d'adjectifs. Moi, c'est pas l'écriture nerveuse que j'aime, mais c'est pas très grave. Et en tout cas, là, tu vois, ce roman que je suis en train de recommencer à écrire, que j'avais commencé à écrire en début d'année, et que je m'étais bien replongée dedans cet été, puis que j'ai complètement abandonné à la rentrée, bah, en fait, là, je m'y replonge, et c'est vachement plus facile à écrire, parce que ce roman, j'y crois vachement plus, mon idée, je la trouve mille fois meilleure, mes personnages, je les aime, j'aime mes personnages. Dans mon premier livre, je les déteste tous, je les déteste, ouais. Et Dieu sait que l'héroïne, c'est moi, tu vois, mais c'est la moi de 17 ans, chiante du cul, prétentieuse et déprimée, tu vois, que j'ai pas du tout envie de re-être. Et mon Dieu, j'ai bientôt 30 ans, qu'est-ce que je suis mieux dans mes baskets aujourd'hui que je l'étais quand j'avais 17-18 ans, et même quand j'avais 25 ans. Donc, du coup, mon écriture aujourd'hui, je suis contente de me la réapproprier, et je suis contente de voir que ce que je fais en ce moment, je le trouve un peu plus lumineux. Et vraiment, là, ces derniers jours, quand j'ai écrit, j'étais là, franchement, je kiffe faire ça, et j'aime bien mes persos, ils sont cool, ils sont marrants, évidemment, c'est que mes amis, tu vois, donc,
mais moi, je la connais, ton histoire, et elle est trop bien.
Ah, vraiment, ça me fait plaisir.
Moi, j'adore ton idée.
Oh, merci, ma fille, c'est gentil, j'espère qu'un jour, d'autres gens pourront lire ces écrits. Mais voilà, donc, en tout cas, si vous avez des idées de romans, je sais à quel point c'est compliqué. C'est pas forcément compliqué d'avoir des idées. Ce qui est terrible et ce qui est ultra ingrat, c'est que dans notre tête, on a un truc, c'est de la bombe. Ouais. C'est un truc de ouf. Et en fait, quand tu commences à jeter sur le papier, t'es là, attends, c'est tout ce que je suis capable de produire, c'est ces phrases de merde, parce que ça ressemble pas du tout film qu'il y a dans ma tête. Et c'est terriblement compliqué. Et en fait, les ateliers d'écriture, ils sont là aussi pour se dire que, bah, c'est pas grave, on va le jeter aux autres et les autres vont être capables de faire des retours, etc. Dans un cercle où il y a que la bienveillance et vraiment
Et où aussi t'as pas tes amis. Enfin, moi, je sais que, tu vois, quand tu donnes quelque chose à lire à quelqu'un, c'est un peu te foutre à poil, tu vois.
Ouais, de ouf.
Enfin, moi, c'est vraiment un truc où, en plus, je suis quelqu'un de pudique, TMTC, et vraiment, j'arrive pas à me foutre à poil devant les gens, et c'est super dur, ou alors faut que j'ai bu vraiment beaucoup de thé d'orge. Et en fait, d'aller dans des ateliers d'écriture comme ça, en fait, ça te pousse à te foutre à poil, parce que finalement, tu deviens, au début, t'oses pas lire, et puis après, tu deviens celle qui veut pas lire, et du coup, c'est pire. Et du coup, et en plus, les gens qui sont là, même s'ils te font un retour un peu négatif, c'est pas des personnes qui sont hautes dans ton estime, ou enfin.
C'est ça. Tu les connais pas, en fait.
C'est ça, tu les connais pas, et en fait, tu peux être d'accord ou non avec elles, alors que, je sais pas, si ta mère, ta cousine, ou.
Ma mère, c'est la personne, jamais de ma vie, elle touche à un truc que j'ai
fait. Ah, mais voilà, c'est
jamais de ma vie. Surtout pas ma mère. Dès que je lui pitche un truc, elle me fait, ouais, et puis bon, pourquoi tu dis, attends, une fois, je lui pitche un truc, et en fait, j'étais tellement stressée de pitcher à ma mère, je lui dis, et là, les gens étaient tous hagards, elle me dit, mais pourquoi tu utilises hagard, là, ça n'a rien à voir avec ce que tu me racontes.
Mais oui, mais
et
c'est.
Et je suis là, yes, c'est top parce que bah toi ta maman tu sais elle écrit, ouais. Elle écrit beaucoup et ta mère elle écrit très bien du
oui,
peu
oui,
que j'ai
elle écrit
là, c'est un très, délire.
Très bien, ouais.
Et moi ma mère pareil, elle a écrit plein de pièces de théâtre et t'es là bon bah oui c'est difficile en plus tu vois t'as cette généalogie qui est au-dessus de ta tête comme une épée Damoclès et c'est pas évident donc là en effet c'est un cercle safe parce que personne tu connais personne au pire on te dit que c'est de la merde ces gens-là au pire tu vas pas à la prochaine séance mais ce serait dommage l'idée c'est de progresser c'est pas grave de se gourer quoi
mais et, après ce que tu pourrais faire c'est faire aussi des ateliers d'écriture avec ta mère parce que moi je l'ai déjà fait et alors
horrible ouais.
Mais non mais parce que finalement tu vois donc ma mère anime des ateliers d'écriture et elle écrit aussi beaucoup enfin bon, bref c'est une écrivaine enfin c'est une artiste et en fait je me suis retrouvée elle m'a inscrite je crois que c'était pour mon anniversaire elle m'a offert un atelier d'écriture où bah, du coup elle participait aussi.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Et wow, du coup, tu te retrouves à écrire des textes qui parfois sont perso, que tu dois lire devant ta mère. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle aussi elle doit le faire. Donc finalement la relation elle est elle devient de d'égal à égal, c'est
ça,
pas
c'est
du
génial.
Tout comme quand tu pitches à ta mère ou quand tu lis à ta mère quelque chose, tu vois, et qui va te
là,
faire des retours.
Là elle se fout à poil aussi quoi.
Là elle se fout la poil aussi si elle joue le jeu, tu vois. Et moi la mienne avait joué le jeu et j'avais joué le jeu à fond. Et du coup, ça crée un truc. Bon, après, par contre, ce qui est trop chiant, c'est que tout le monde nous compare, tu vois. C'est genre, ah, oh, tu tiens de ta mère, ou ah, oh, tu machin, mmh. tu vois. Et donc, voilà, c'est, t'as toujours cette comparaison. Mais par contre, dans la relation, t'arrives à un truc un peu plus d'égal à égal. Et
c'est hyper intéressant.
C'est hyper intéressant.
Bon, ouais. Je sais que ma mère fera jamais un atelier d'écriture avec moi, genre, ça n'arrivera jamais. Enfin, quoi que je pourrais lui bon. Demander, mais ma mère, elle me dit, oh, écoute, j'ai des trucs à faire. Faut que je fasse du trampoline.
Eh, tu vois, c'est peut-être elle a peur aussi de se confronter à toi.
Non, mais oui, c'est clair. Mais là, ça fait déjà 3 semaines que je lui demande de m'écrire un morceau de musique. Ma mère, elle est pianiste aussi. Et... Enfin, ma mère, elle sait tout faire. C'est fatigant aussi. Mais tu sais, t'as des parents, ils savent tout faire. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais je voulais juste aussi dire un truc qui m'a marqué pendant cet épisode, cette première édition des ateliers d'écriture. C'est que toutes les personnes qui ont participé, toutes sans aucune exception, avant que Capucine et moi en fasse la remarque, donc il y avait 17 personnes ce samedi-là. Sur les 17, les 14 premières, ce sont toutes ont toutes commencé avant leur texte par excuser la médiocrité du contenu qu'elles allaient lire, ou alors dire voilà, alors je l'ai écrit rapidement, bon moi je l'ai écrit que ce matin, alors du coup machin. Et j'étais là en fait, bah toi ils m'ont fait du théâtre maintenant, ouais. Donc je sais que c'est le dernier truc à faire en fait, ouais. Vraiment, vraiment ne racontez pas l'histoire derrière votre récit, parce qu'en fait. Vraiment, les textes qu'on m'a lus, j'étais là, vous m'auriez pas dit que vous l'aviez écrit 1h30 avant de venir à l'atelier, je l'aurais jamais su tellement j'ai trouvé bouleversant et bien écrit. Donc en fait, déjà, ça sert à rien de s'excuser, parce que votre vie, il y a des aléas, etc. Et en fait, on s'en fiche que vous l'ayez fait 1h30 avant, vous payez pour faire cet atelier, c'est pour vous, tu vois. Enfin, moi, je m'en bats les couilles, je suis pas une maîtresse d'école, quoi. Et surtout, en fait, j'en peux plus que les meufs passent leur temps à se dénigrer tout le temps. Moi, quand on m'écrit sur Instagram, c'est « Kaline dit salut, coucou, désolée de te déranger, pardon ». Je suis là « Mais pourquoi pardon, en fait ?» Tu vois, j'ai Instagram, c'est pour qu'on communique avec d'autres gens, tu vois. Donc, je suis là « Je comprends pas pourquoi on commence par s'excuser avant d'avoir fait le truc. » Je suis là « C'est dommage, merde !»
Oui, puis ça met un truc un peu déceptif, enfin, pas déceptif, mais genre une attente un peu... En plus, ça ancre ton texte qui va être... plus ou moins réaliste. Enfin, tu vois, ça l'ancre dans une écriture où tu vois, c'est comme si on parlait de magie, justement, dans cet épisode. C'est comme si t'allais voir derrière les coulisses et que le magicien était en train de se préparer en stress et tout.
Mais ouais, c'est
et
ça.
Qu'il arrivait sur scène et on était là, ah ouais, du coup, il était stressé avant. Et en fait, on s'en fout.
Ça donne peu de crédit. C'est dommage parce que ça décrédibilise totalement la performance. Enfin, et en fait, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Encore une fois, c'est pour eux que les gens font ça, tu vois. Enfin. Et voilà, donc faut arrêter de s'excuser dans la vie. Enfin là, c'est mon message un peu chiant. Je suis de super mauvaise humeur aujourd'hui en plus. Mais j'ai une cystite, voilà, qui me pourrit la vie. Mais vraiment, faut arrêter de s'excuser pour tout. Putain, vraiment, moi aussi, je m'excusais tout le temps quand j'étais plus jeune, parce que j'étais profondément timide, parce que je savais pas où était ma place dans le monde. Et en fait, je me rends compte que depuis que j'arrête d'être tout le temps en train de m'excuser et d'être tout le temps en train de me regarder en fait, ouais. Être en train d'être gênée. Du coup, j'arrête d'être gênée tout court. Et en fait, je kiffe un peu plus ma life, tu vois. Et franchement, depuis que toi et moi on fait des cours de théâtre, il y a aucun moment où j'ai été gênée du cul, tu vois. Il y a plein de fois où je pige pas les exercices. Enfin, et je suis pas gênée en fait, je m'en fous, tu vois. Le prof parfois oui. m'humilie, je suis là, bah vas-y, humilie-moi, je m'en bats les couilles, tu vois. J'ai pas envie de me regarder faire cette activité, tu vois. J'ai envie de la kiffer pour la kiffer, tu vois.
Et puis aussi, ce qu'il faut, enfin moi, c'est ce que j'ai appris aussi en arrivant dans le monde professionnel et même dans plein de trucs, tu vois, c'est que tu penses que les gens sont des adultes et tu penses que les gens savent ce qu'ils font. En fait,
personne sait ce qu'il fait.
Personne sait ce qu'il fait. Et du coup,
personne.
Si toi tu dis que tu sais pas ce que tu fais, et ben en fait tu passes pour la meuf qui sait pas ce qu'elle fait.
Ouais.
Alors que si tu le dis pas, juste tu passes pour la meuf qui fait les trucs et qui les fait aussi bien que les autres, voire mieux, tu vois.
Exactement. Donc vraiment, venez, soyez fiers de vos écrits. Et même si vous l'avez écrit un quart d'heure avant, comme c'est mon cas à chaque fois que je fais quelque chose à l'oral, et vraiment, ne le dites pas. Voilà, ne le dites pas. Ne le dites pas et venez kiffer votre expérience, c'est tout. Arrêtons de nous excuser. Les hommes ne le font pas. Et c'est ce qu'on se dit tout le temps. Les hommes ne s'excusent pas. Et les hommes, quand on leur dit ça, ils sont là. Non, bien sûr que non, on s'excuse tout le temps. Et je suis là, non, vraiment, jamais. À aucun moment, toi, je t'ai vu, je t'ai repéré, t'es rentré dans la soirée, t'étais le maître du showbiz. Donc, je sais pas si ce que je dis a du sens.
Toi, je t'ai vu, t'es arrivé, t'étais le maître du showbiz.
Non, mais les gars, ils rentrent toujours en soirée. Parfois, t'as l'impression qu'ils ont inventé les soirées. Ils ont créé les gens qui y sont. Et t'es là, nique ta race, on te connaît, hop, tu vois. Enfin,
Une belle digression sur Kalindi qui déteste tous les gens en soirée.
Non, pas les gens, mais les mecs, souvent, t'arrives en soirée, ils se la pètent, ils sont là entre groupes de mecs, ils sont là, ouais, ils parlent fort et tout, ouais. Je suis là. Allez, moi aussi, je parle fort. Va au coin, tu vois, ça me saoule.
Bravo.
Donc, voilà, c'était mon coup de gueule de la journée. Je vais aller prendre un antibiotique et je serai de meilleure humeur la prochaine fois.
Mais merci, Kalindi.
Merci à vous de m'avoir supporté.
Mais merci pour cette faille spatio-temporelle de LMK et on retourne tout de suite à l'épisode.
Ouais!
Bon, bah, merci beaucoup, Kalindi, pour ce kiff. Ça fait bien envie et je vais terminer cette émission avec le mien.
Ouais!
Bah, oui.
Moi, en ce moment, j'apprends quelque chose de nouveau. Et c'est rare, quand tu grandis, que tu vas plus à l'école, d'apprendre quelque chose de nouveau. J'apprends à jouer de la guitare.
Oh yes!
Sérieux?
Oui.
Mais de
trop cool. Et je suis une brêle absolue.
C'est dur la guitare, ça normal, fait mal aux doigts et tout.
Dis-moi que t'as fait de la guitare, Mimi.
Oui, j'ai arrêté. J'en ai fait, en fait, bon. J'avais mon mec de l'époque, à une époque de ma vie, était pour le coup vraiment très bon guitariste, il donnait des cours, c'était vraiment c'était pas son métier mais c'était sa passion, il en faisait depuis des années et des années, et il m'a très 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 gentiment, pour m'inviter finalement dans son monde et partager cette passion de la musique, offert une guitare, et une très jolie en plus, et il voulait me donner des cours de guitare, ça m'a cassé les couilles au bout de deux cours, j'ai donné cette guitare à ma meilleure amie, et je n'ai pas appris à jouer de la guitare, voilà. Ne forcez pas vos intérêts sur vos conjoints, c'est pas leur truc, je n'aime pas la musique, ça ne m'intéresse pas, c'est pas magiquement parce qu'il est c'est un joli brin barbu que ça va plus m'intéresser de me taper des cours de guitare. Donc,
non, ouais, il aurait pu commencer avec un harmonica, quoi. Tranquille. Doucement.
Oui, voilà, par exemple, ça m'aurait.
Tiens, un triangle, on va voir déjà si t'aimes bien ça. Et puis...
Parce que l'harmonica, je crois que c'est un peu technique quand même.
Ouais, quand même, vrai, attends, ouais. C'est chaud.
C'est quand t'aspires.
Non,
non, tu souffles.
Faut
non,
faire
non,
les
non,
deux.
T'as raison, l'harmonica, t'as vraiment, faut aspirer.
C'est ça le truc. Ouais.
C'est pas une flûte de pan.
C'est long cet épisode. Hein.
Alors,
allez, je suis en train de me dire, j'ai Among Us ce soir à 19h.
Pourquoi?
Qu'est-ce qui t'a attiré à la guitare?
Eh ben, en fait, écoute, j'étais en week-end avec des amis il y a fort longtemps, et puis j'avais vu cette guitare qui traînait, et personne n'en jouait. Alors je l'ai accordée avec l'aide de mes amis guitaristes, et puis j'ai commencé à jouer genre Pump It, tu vois, des Black Eyed Peas, ou le truc de James Bond et tout machin. Et j'ai dit à mon pote, moi, mon rêve, depuis que je suis vraiment très jeune, c'est de savoir faire d'un instrument et d'en jouer. Et j'ai fait du piano, mais il y a très très longtemps. Après, j'étais un peu autodidacte, mais je suis pas très forte, tu vois. Enfin, genre, j'ai genre deux chansons que je sais faire et que je sais chanter en même temps, tu vois. Mais c'est vraiment...
C'est
pas ouf, tu vois. Et vraiment, et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne la guitare. Et que je devienne Taylor Swift,
oui,
parce que c'est mon objectif. Mm-hmm. Vous avez vu, je me suis fait une frange et tout, donc c'est bon. Et
ça, c'est bon.
Et
dans sa guitare, ensuite Taylor Swift.
Voilà. Et du coup, mon ami m'a expliqué déjà la notation des guitares, parce que ça semble un peu cryptique. Au début, quand tu regardes et tout, il y a des traits, des points, des ronds et tout. J'étais là, pff, le solfège des guitares, ça a l'air délire. En fait, c'est juste un dessin de la guitare.
Où tu mets tes doigts.
Ouais. Et du coup, j'étais là, waouh, putain,
est-ce qu'il a
rien à voir.
Tourné la page et t'as fait, ah, c'était le manche. Yes.
Ça.
Et moi, par rapport au piano, j'ai galéré pendant des années sur le solfège et tout, bref. Et là, c'était hyper simple, du coup, je me suis dit, bah vas-y. Et franchement, j'arrive maintenant à faire Lover de Taylor Swift, mais ça sonne très faux. Voilà, parce que j'ai pas assez de force dans les doigts.
Je croyais que ça finissait bien cette histoire.
J'ai pas assez de force dans les doigts et du coup j'ai vraiment très mal. En plus, il m'a prêté une guitare parce qu'il est très gentil pendant le confinement. Il m'a prêté sa guitare qui est une guitare folk et du coup ça me fend les doigts. Ça fait trop mal. Mais c'est vraiment mon rêve un jour. Vous me verrez sur scène. Mais c'est comme ça que je suis tombée amoureuse la première fois. Hein. Genre vraiment, c'était un guitariste.
Ouais. Original, Alix Martino.
Et ouais, et en fait, il.
T'es
dur. T'es si méchante. Et je te parle de mon premier amour.
100% des gens autour de cette table ont eu un premier amoureux qui faisait de la guitare. Et c'est pour ça qu'elles sont tombées amoureuses. Non, 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 non.
C'était pas le premier. Et amoureux guitariste, du coup, j'ai su qu'il était guitariste après être tombée amoureuse.
Voilà. Bah,
je parle que de moi.
Hop là. Il y a que toi.
S'il avait été magicien, ça aurait été autre chose.
Ah. Ou russe.
Ou écrivain russe. Ouais.
Mais non, mais j'étais. En fait, j'étais folle parce que du coup, il était dans un groupe et tout, tu vois. Genre, grave stylé le gars. Il donnait des concerts. Et du coup, pendant un concert, il avait. Parce qu'il chantait pas, mais il chantait bien, mais il chantait pas dans le groupe. Et il avait pris le micro, il avait commencé à chanter notre chanson et tout, genre devant tout le monde, en me regardant droit dans les yeux. Et moi, j'étais là. Ça marche trop. Et du coup, je vais faire ça. Comme ça, je pense que je vais séduire tous les hommes.
Ah oui, donc c'est pour Peugeot.
Bah non, pour me pécho moi-même aussi, tu vois, genre me trouver séduisante.
Non, mais je trouve ça trop dans cette entreprise.
Non, mais je trouve ça trop séduisant, les gens qui font de la guitare, genre vraiment, je sais pas pourquoi, ça me rend folle.
Voilà. Un peu moins de l'accordéon, du coup.
Mais en vrai, moi, tous les gens qui font d'un instrument, tu vois, je trouve ça assez virtuose et c'est. Enfin. Que ce soit de l'harmonica ou du triangle, ma foi.
La cornemuse en kilt et tout.
Non, ouais, tout à fait.
Oui,
oui, bah oui, oui, oui. Non, mais en vrai, il y a un côté sympa, la cornemuse en kilt.
Tu vas continuer, du coup?
Je vais continuer, je vous promets.
Ouais, tu vas te faire de la corne, ça va.
Ouais, je vais me faire de la...
Ouais, ça va, ça va passer.
Ouais.
J'ai atteint le point un peu début de corne quand même avant d'arrêter complètement.
Et là, t'arrêtes de souffrir.
Ouais,
là,
bah
tu t'amuses un peu.
Mais oui, parce que, alors, si vous avez bien écouté LMK, vous saurez que Cédric a fait un jingle.
Quoi?
Ouais,
et qui fait de la guitare et qui chante. Mais what?
Ça a résonné.
On a cet info en fin 2020. Qu'est-ce qui se passe?
C'était il y a deux épisodes.
Ouais, c'est vrai, je l'ai mis deux fois.
Après, ah bon?
Oui, je l'ai mis deux fois.
J'ai pas écouté le dernier, pardon.
Putain, j'ai envie de l'écouter immédiatement.
Non, ah ouais, tu vas le faire en live, c'est incroyable.
Guitare avec de la air guitare.
Mais attends, je savais même pas que tu jouais de la guitare, Cédric.
Mais si, j'avais fait des petits morceaux là quand il y avait une guitare qui traînait dans le bureau il y a longtemps. Il y a une vieille captation de Camille qui me chope en train de faire Baby One More Time.
Mais attends, mais je vlog. Suis où, moi? Mais vraiment, est-ce que je fais partie de cette entreprise? Parce que je savais pas du tout, quoi.
Mais je crois que j'avais une mémoire sélective. Mais tu m'effaces de ta mémoire sélective.
C'est fou, ça, Cédric, c'est dingue.
Après, voilà, c'était l'époque Camille, ouais. Avait des mégaphones partout, ouais, des longues pauses clopes bruyantes, tu vois, peut-être que juste t'étais occupée, ou peut-être que tu travaillais studieusement, tu t'en projettes sur presse ou autre. Ça.
Oui.
Moi, j'avais commencé à 17, 18 ans.
Ah, c'était pour pécho aussi, alors.
C'était pour me kiffer, ouais, comme ça c'est bon. C'est parce que j'avais envie de chanter des chansons et du coup il fallait que j'aie une guitare pour chanter des chansons de rock and roll et donc du coup je m'étais acheté une guitare. J'avais commencé en m'achetant une électrique, c'était plus facile parce que tu as moins besoin d'avoir de la corne, mais du coup quand tu sais pas jouer de la guitare et que tu branches ça à ton ampli dans un appartement,
aïe.
C'était du coup j'ai vite acheté une folk quand même.
Ah ouais, donc ça fait longtemps que t'en joues, quoi.
C'est comme ça que t'as pécho ta meuf ou pas?
J'ai jamais... Non, elle s'en fout. Non, mais parce que j'aimais bien la musique, ça l'intéressait, mais que je joue de la musique, non. Elle fait du piano depuis qu'elle a genre 5 ans.
Elle
me regarde jouer de la guitare, elle fait « Mais tu chantes faux, mais c'est pas les bons accords, mais qu'est-ce que tu fais ?» T'as genre « C'est bon, vas-y, c'est des tablatures trouvées sur Internet, lâche-moi, quoi. Je sais pas ce qu'ils font, les gens, hein, c'est bon.
Ça, mais à ton cours de théâtre, cours de guitare, année très culture. Hein, très,
la première partie du prochain LMK Live, hein, ça va être quelque chose.
Oh, ce serait ouf!
Mimi nous fait de la magie.
Oui, je voulais dire Capoeira.
Ce serait un.
Oui!
LMK, LMK, un incroyable. Ce serait LMK, un incroyable talent, et on ferait tous nos talents.
Moi, j'apprends à jouer du ukulélé avec un garçon que je fréquente un peu en ce moment, et je suis très très peu douée également. Et alors que le ukulélé, c'est quand même un peu plus simple. Déjà, t'as moins la distanciation des mains.
Des cordes.
Et c'est quand même un peu moins difficile. Sauf que moi, du coup, j'ai le problème inverse, c'est que le ukulélé, je sais pas où le mettre sur WAM, tu vois. Donc je suis là, je le pose sur mes seins et je galère de ouf, donc pas facile non plus. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, ouais.
Quand même, tu t'es foutu de la gueule d'Alix parce que c'était ultra basic de crusher sur un guitariste. T'apprends le ukulélé avec ton crush en mode.
Ouais, attends, je mets. Ah non, non, mais vraiment, ça fait longtemps que je crush plus pour ça, vous savez. Non, 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 c'est pas pour ça que je l'ai crushé, lui. Donc,
non, mais comme activité de. Ah oh, ouais. Je fréquente, vas-y, tu m'apprends le ukulélé après l'amour et tout. On connaît.
Ouais.
Tu m'apprends le ukulélé après l'amour. Titre d'épisode de.
Ah oui!
Ça ou un T-Rex qui joue du ukulélé. Moi j'aime les deux images. Et ben voilà, c'est la fin de mon kiff. Merci.
Oh,
merci Alix.
Merci Martino.
Merci d'avoir été là pendant tout cet épisode de LMK. Vous serez ravis, ceux qui aiment les longs épisodes. Et puis merci d'avoir écouté jusqu'au bout les LM Crado. N'hésitez pas à commenter sur Apple Podcast avec 5 étoiles si vous avez kiffé, si vous avez des petits commentaires, si vous avez des petites anecdotes de stars.
Si vous voulez dire qu'on a des voix nulles.
Oui, des voix de dinde.
Les dindes, c'est déjà pris.
Voilà, d'autres voix. Et si vous avez des jingles ou des dédicaces audio à nous envoyer, envoyez-les à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, parlez-en à vos amis. Voilà, le bouche à oreille, tout ça, tout ça. Et puis, en attendant la semaine prochaine,
touchez-vous bien le kiki! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.